Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, installez-vous confortablement et bienvenue dans Sortons le grand jeu. Je suis Cyrus et je suis, comme d'habitude, accompagné pour cette chronique par le Pionfesseur. Salut le Pionfesseur.
Salut Cyrus.
Alors, comment vas-tu depuis la dernière fois?
Ça va très bien et toi?
Ah bah ça va. Un petit rhume qui démarre, bon, j'espère que ça va aller au niveau de la voix. Mais...
J'espère que ça s'entendra pas trop, ouais.
Voilà. Et bien, je propose qu'on commence par revenir sur les commentaires, revenir deux mois en avant, on va revenir sur les commentaires de la dernière fois. La dernière fois, nous avions parlé d'un immense jeu, d'un monument qui était Magic, l'Assemblée.
Exact. Et malgré le monument que c'était, finalement, on a eu moins de commentaires que sur Mémoire 44 ou sur Puerto Rico. Donc les deux chroniques d'avant, je sais pas, peut-être c'était le début de l'année ou un truc comme ça.
Oui, bon, puis surtout je pense que les gens s'habituent maintenant au format et du coup ils ne prennent plus la peine de venir nous en parler en commentaire. C'est un beau dommage.
On vous rappelle que c'est important de nous laisser des commentaires, donc ça nous motive et puis on est toujours content de voir vos retours, à moins que peut-être qu'il y avait juste pas de retour parce que tout ce qu'on a dit c'était
exact,
parfait.
Ouais. Ouais. Ça doit être ça. je ne vois que cette explication. Non mais c'est intéressant d'avoir des, on a surtout souvent des compléments, hein, donc c'est intéressant parce que évidemment on est loin de tout savoir. Hein.
Et bah du coup on va faire un petit retour sur ces petits commentaires. Alors déjà comme d'habitude on a un commentaire de Twin.
Ah Twin, fidèle au poste.
Ça, c'est comme toutes les chroniques. Hein. Donc il nous a fait un très long commentaire, donc on va peut-être pas le mentionner à chaque fois, mais en général les gens qui commentent nous disent qu'ils sont très contents de la chronique, donc ça c'est super, hein, ça nous fait très plaisir. Hein. Mais et on lui, va pas vous le rabâcher à chaque fois parce qu'après vous allez croire qu'on se vante.
Et lui, revenant en particulier sur certains éléments, il revenait sur l'aspect combo.
Ouais, parce que tu avais dit que on cherchait justement des jeux de combo plus anciens que Magic, ou du moins il y avait des éléments où quand tu faisais 1 plus 1, ça faisait pas 2, mais ça faisait 3, quoi, quelque chose comme ça. Ouais.
Je disais que j'étais à peu près persuadé qu'il devait y avoir des choses auparavant, mais qu'on n'arrivait pas effectivement à mettre le doigt dessus. Alors, il a cité des choses hein, qui sont pas forcément ce qu'on pourrait appeler des jeux de combo, parce qu'il parle de certains aspects mécaniques qui sont, entre guillemets, noyés dans certains jeux. Il parle en particulier de Risk ou de Monopoly, qui sont quand même des jeux on ne peut plus connus.
Des jeux hérétiques en même temps.
Ah oui, tu les vois comme ça, toi, carrément.
Non, mais... Je vais encore me faire flinguer dans les commentaires. Oui, parce que effectivement, dans Risk ou dans Monopoly, tu peux avoir une combinaison de 3 cartes. Donc, Monopoly, c'est quand t'as la même rue, et à Risk, c'est quand t'as des cartes du même continent, et tu peux avoir un petit bonus si t'arrives à assembler ces cartes. Du coup, effectivement, c'est des exemples de combinaisons. Après, je ne sais pas si vraiment les gens entendent ça par le terme combo.
Bah en fait, en tout cas, ça répond à la définition que je donnais, qui était de dire une carte plus une carte donne un effet qui en vaut 3.
Ouais, c'est ça. Mais moi, je pense du coup, ça remettrait peut-être plus en cause la définition. En tout cas, il soulève un point intéressant, c'est clair. Ouais. D'ailleurs, il cite aussi la belote, où quand t'as effectivement la dame et le roi d'atout à la belote, t'as une belote, donc ça donne
ça
20 points de plus.
Points, ouais.
Après, on peut aussi citer plein de jeux, effectivement, le poker, des choses comme ça, où quand tu combines des cartes, ça fait des combinaisons de points ou de valeurs, en tout cas, tu vois, qui sont plus fortes que d'autres. Mais je sais pas si on peut vraiment parler de combo, de jeu à combo dans ce cas-là, quoi.
Ouais, c'est vrai que, ouais. Le poker, c'est ce que je citais effectivement hors enregistrement, mais c'est vrai qu'à y réfléchir, en fait, on est plus sur la probabilité en fait dans le poker. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur le rassemblement d'une probabilité qui fait que la combinaison est plus ou moins forte. Donc on est peut-être pas là-dedans.
Bah, pareil dans Risk et Monopoly, au final, t'es juste dans l'idée de rassembler des choses, alors que dans les jeux à combo, t'as plus une idée d'émergence. C'est-à-dire, t'as deux effets et les créateurs du jeu n'avaient pas forcément prévu, ou alors
l'enchaînement des deux.
Ouais,
il
n'avait pas
peu,
forcément prévu l'enchaînement des deux, ou du moins toute seule la carte, elle sert déjà à quelque chose, mais c'est vraiment la synergie des deux qui va les booster. Alors que dans Risk ou Monopoly, je sais pas si c'est vraiment un boost, c'est plus un bonus. C'est pour ça que c'est pas la même chose. C'est un peu dur à expliquer. Faudrait vraiment faire un épilogue sur pendant une heure là-dessus, donc on va pas le faire.
Après, il revenait sur les jeux évolutifs. Il disait que pour lui, parce qu'on avait parlé de Zune.
Oui, du coup, il dit que Zune, ce serait pas un jeu évolutif parce que toutes les boîtes seraient sorties en même temps. Pour le coup, Twin, je suis pas d'accord avec toi, parce que Zundo, tu dis que c'est une espèce de réédition, mais pour le coup, c'est pas une réédition, c'est vraiment un standalone et tu peux les combiner ensemble. Et ils avaient refait une autre édition de Zune plus tard avec d'autres peuples encore. Donc, pour le coup, il y a pas tout qui est sorti en même temps. Après, oui, je ne sais pas si le fait que ce soit sorti en même temps, ça change quelque chose au fait que ce soit évolutif ou pas. Tu peux quand même acheter un paquet ou trois paquets et les combiner entre eux ou non. Et du coup, ouais, y a cet aspect collection, quoi. Donc, je pense que ça marche aussi comme jeu évolutif au sens living card game, quoi. C'est-à-dire, tu peux acheter des paquets qui te servent pas d'extension, mais pour créer, pour affronter d'autres paquets, quoi, pour avoir plus de peuples. Mais tu sais ce qu'il y a déjà dedans, quoi. Il y a un aspect collection où tu sais déjà ce qu'il y a dans ton paquet. Mmh, ouais, comme dans les JC.
Je pense qu'il entend l'évolution au fil du temps, lui. Alors qu'effectivement, c'est pas forcément comme ça qu'on l'avait abordé, nous. Bon, après, on n'est pas rentré non plus dans le détail de cet aspect évolution. On était plutôt resté sur le fait qu'effectivement, dans le jeu de cartes évolutif, on était sur des paquets de cartes qui étaient définis au départ.
Voilà, c'est plus ça. Moi,
là, effectivement, Zoom se rapproche bien de cet aspect-là, je pense.
Mais vérifie, Twin, hein, je suis à peu près certain que Zoom est sorti en trois fois distinctes. Donc, au pire, il y a eu vraiment des...
Trois jours d'intervalle
Non, il y a eu au moins plusieurs mois.
Ok. Et ensuite, il parlait enfin, il a dit qu'on aurait peut-être pu parler un peu plus des illustrateurs. Alors bon, c'est vrai que bon, on a quand même fait une chronique qui était quand même déjà assez longue.
Ouais, la plus longue de toutes.
Perso, c'est pas non plus ma spécialité, hein. Les illustrateurs, c'est pas quelque chose auquel je m'intéresse vraiment beaucoup. Donc je suis pas très expert dans le domaine.
Moi non plus, hein, mais effectivement, on remarque que c'est quand même quelque chose qui a une place importante dans Magic, ne serait-ce que sur chaque carte, il y a le nom de l'illustrateur.
C'est vrai. Elles sont toutes signées. Pour le coup, ça aurait été un peu compliqué de mettre le nom des illustrateurs sur le dos des boîtes. Mais oui. Effectivement, sur chaque carte, on retrouve le nom de l'illustrateur, enfin, ou sa signature, du moins. T'as raison, il y a carrément le nom écrit.
Ouais, tout en bas.
Clairement. Hein, ouais.
Ouais. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Puis, je crois, je sais pas, hein, mais il me semble bien que les gros joueurs de Magic connaissent des noms d'illustrateurs. Si tu t'y connais bien en Magic, enfin, moi, là, je m'en souviens, il y a des illustrateurs que je pourrais te sortir de tête, tu vois, comme ça.
Vas-y.
Anthony S. Water, Thomas M. Baxa, tu vois, parce que c'était des illustrations qui me marquaient à l'époque, quoi.
D'accord.
Et je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas des gens qui collectionnent les cartes Magic sans y jouer, juste les cartes de certains illustrateurs. Je sais pas si ça existe dans le monde.
C'est fort probable.
Ça peut exister, quoi.
Donc effectivement, on n'a pas beaucoup parlé des illustrateurs, on a juste cité le fait qu'il y en ait beaucoup. Voilà.
Mais il fait bien de le dire, de le souligner, parce que.
Et c'est vrai que je pense que aujourd'hui, je pense que, enfin, c'est, je sais pas si c'est un privilège, mais je pense que c'est plutôt sympa pour les illustrateurs de pouvoir dire j'ai illustré une carte magique, quoi. Enfin, une, en général plusieurs.
Ouais, c'est clair. Bah, je pense qu'il y a, ouais, il y a une vraie reconnaissance des illustrateurs dans Magic, et ça s'est un peu étendu aux autres jeux de cartes à collectionner, à mon avis. Mm-hmm. Je pense à Hearthstone, qui est un jeu de cartes virtuel pour le coup. Où malgré tout, bah, les illustrateurs, il me semble bien que quand tu vas dans ta collection, tu peux voir le nom de l'illustrateur de ta carte dans le jeu. Pas sur la carte elle-même, mais quand tu regardes ta collection, quoi.
D'accord.
Donc il y a aussi une espèce de reconnaissance dans
ce travail.
Ouais.
Ok. On a eu également un commentaire de Monsieur Patate qui nous donnait d'autres exemples de jeux de cartes évolutifs qui étaient arrivés avant les Living Card Game, donc la marque de FFG.
Avant que le terme évolutif existe, en fait.
Oui, c'est ça.
Du coup, parmi les exemples, il donne Planète Petri. Alors, celui-là, je le connais pas, par contre.
Non, moi non plus.
Il donne Blue Moon, un jeu de Reiner Knizia, du coup.
Ah, que je connais que de nom, pour le coup.
Et ouais, pareil, j'ai jamais joué, mais je savais que c'était un jeu de cartes évolutives, en tout cas. Et Scarab Lords, qui a ensuite donné Minotaur Lords, qui est aussi évolutif. Alors je crois qu'il y a eu que 3 boîtes de celui-là. Voilà, effectivement.
Bon, il y en avait avant.
Ça suffit à ce que ça soit évolutif.
Il nous parle également de Catan, la version 2 joueurs, pour l'aspect carte à collectionner.
Ouais, parce que moi je disais, et du coup je vais bien confirmer, parce que entre Twin et Monsieur Patate, ils étaient pas forcément d'accord dans les commentaires. Je précisais bien que effectivement je disais que je déplorais un peu le fait qu'il y avait beaucoup de jeux de cartes à collectionner où on tapait sur des trucs, quoi. Donc avec des thèmes un peu plus améritrash, on va dire.
Et qu'il y avait d'affrontement, on va dire.
Ouais, d'affrontement, voilà.
D'affrontement, justement, guerrier, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Monsieur Patate avait pas trop compris cette, enfin, c'est peut-être moi, je me suis mal exprimé, hein, je m'en fiche, mais c'est juste pour expliquer que c'était pas très clair. Et que du coup, il a pensé que comme contre-exemple, il m'a cité des jeux coopératifs, mais genre Le Seigneur des Anneaux, Arkham, etc. Mais malgré tout, ces jeux coopératifs, ça reste des jeux d'affrontement. C'est juste que vous tapez sur une intelligence artificielle au lieu de taper sur votre adversaire. Et il n'y a jamais de jeu où on fait plus la gestion, où on construit des choses. je sais pas, où on fait des gâteaux, on fait, je sais pas, j'ai dit des choses, où on pêche des poissons, pourquoi pas, tu vois. Enfin, il pourrait y avoir plein de choses, mais c'est toujours des thèmes, on tape sur des trucs, quoi. Et du coup, il m'a donné comme contre-exemple, effectivement, les colons de Catan. Et ça, je le savais pas, que les colons de Catan deux joueurs, donc le jeu de cartes, en tournoi, ça se jouait à la manière d'un jeu de cartes collectionné. C'est-à-dire qu'on prend parmi toutes les extensions, on se fabrique un deck, et on va affronter l'adversaire à un jeu de gestion.
Aucune connaissance non plus, je t'avoue, de ce mode de jeu-là.
Ouais. Et c'est pas le jeu de base hein, qui est comme ça. C'est vraiment un mode de tournoi, quoi, pour le coup.
D'accord.
Donc, à mon avis, il faut avoir des extensions, parce que je pense qu'avec le jeu de base, ça suffit pas. Mais je trouve ça assez génial, du coup. J'ai appris un truc. Pourtant, je l'ai, le jeu, mais je savais pas qu'on pouvait y jouer comme ça.
Et enfin, un dernier commentaire sur lequel on va s'arrêter un petit peu, c'est le commentaire de Ecribaf. Qui c'est plutôt un commentaire un petit peu humoristique on va dire, qui disait qu'en fait il pensait que proxy jeu, le terme proxy venait justement de Magic, était de ces proxys, les cartes, les fausses cartes qu'on imprime. Eh bien non, mais ça ne s'écrit pas pareil. C'est bien proxy avec un i et non pas avec un y, et proxy de proximité plutôt.
Et s'il veut plus d'informations là-dessus, il peut écouter l'épisode 100.
Voilà, bon courage. Ça fait combien 5, 6 heures, je sais plus.
Ouais, je sais plus, ouais, 6 heures, un truc comme ça. Mais il y a l'explication dedans. C'est que pour les plus méritants.
Et bien voilà, ça c'était les commentaires de la dernière fois. Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour d'horizon.
Voilà.
Je te propose donc qu'on passe au vif du sujet.
Allez. On parle de quoi aujourd'hui alors ?
Et bien aujourd'hui on va parler de Carcassonne.
Et vous le saviez déjà puisque vous avez téléchargé le podcast et que c'est écrit
dessus. C'est génial. C'est beau la technologie. Donc Carcassonne qui est un jeu de Klaus Jürgen Brede.
Un nom très simple à prononcer.
Bon, ça va, hein. On a le droit à pire. C'est quelqu'un de très honorable, nous n'en doutons absolument pas. Donc Klaus Jürgen Brede, eh ben, si vous ne vous êtes jamais penché sur Carcassonne, il est possible que ce nom ne vous dise pas grand-chose. Mm-hmm. On va en parler.
Donc, le jeu a été édité en 2000, pile, chez Hansim Gluck. Donc, Hansim Gluck, bah, on en avait déjà parlé dans la toute première chronique, puisque c'était l'éditeur de Manhattan, donc un des jeux de Andreas Seyfarth, qui avait fait aussi Puerto Rico, tout ça. Oh là là, tout est lié.
C'est incroyable.
C'est un jeu qui est illustré par Doris Matthaus, j'espère que je le prononce bien. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, mais il est mieux à 2, et à partir de 8 ans. Donc voilà pour la fiche signalétique. Alors, comment est-ce que ça se joue, Cyrus ? Pour ceux qui ne le savent pas encore, parce que quand même.
Mais c'est pas grave, on va quand même faire l'effort. L'effort, d'ailleurs, ça va pas être un gros effort. Hein. Carcassonne, c'est on ne peut plus simple. Vous piochez une tuile, vous la posez sur le plateau de jeu. Donc vous allez construire ainsi une sorte de paysage avec des tuiles carrées. Il va falloir respecter des contraintes de pose, puisqu'on va en gros poser comme un puzzle. On va devoir assembler les côtés de façon à ce que ça respecte le dessin, l'illustration.
C'est-à-dire que si vous avez une route, vous devez la mettre à côté d'une route. Si vous avez un morceau de ville, vous devez le mettre à côté d'un morceau de ville, quoi, par exemple.
Voilà. Et donc ça, justement, ce que tu viens de citer, ce sont les éléments de paysage qu'on peut trouver dans Carcassonne. Donc effectivement, de la ville, de la route, on va trouver des abbayes, on va trouver également des champs. Voilà, et c'est à peu près tout.
Dans le jeu de base, c'est tout, en tout cas. Ouais.
C'est même tout à fait tout, dans le jeu de base. Et après que vous ayez posé une tuile, vous allez pouvoir poser un petit personnage en bois sur votre tuile, et uniquement sur votre tuile. Et là, vous allez pouvoir choisir de poser ce personnage sur un des éléments du décor. Donc, encore une fois, ville, champ, route ou abbaye. Et voilà.
Très, très simple. Et ensuite, une fois que l'élément de paysage en question est terminé, par exemple, si vous avez placé votre bonhomme sur une route, ça veut dire qu'une fois que la route sera complété, parce qu'il y a des choses qui font que la route sera complétée, ce petit bonhomme, vous le récupérez et vous scorez un certain nombre de points. Donc c'est important parce qu'en fait, il y a toute une mécanique où vous avez un nombre limité de bonhommes devant vous, et donc si vous décidez de le poser, bah, potentiellement, si c'est votre dernier bonhomme, bah, vous pouvez plus placer de bonhomme jusqu'à ce que vous en récupériez un. Donc, jusqu'à ce que...
Qu'on ait fini un élément de décor sur lequel se trouve un de nos personnages.
Voilà. Jusqu'à ce qu'on arrive à décompter un de ces éléments, quoi. Donc, il y a un petit côté stop ou encore. Je sais même pas si on peut dire stop ou encore. C'est...
Ouais,
une petite prise de décision, en tout cas, à ce niveau-là.
Une prise de risque, on va dire, peut-être, ouais.
Ouais, c'est ça, ouais. Une petite gestion de ces bonhommes, quoi.
Mais on parle de ces petits bonhommes en bois, là, depuis tout à l'heure. Mais ce serait pas des meeples, quand même, ces petits bonhommes en bois ?
Bah, effectivement, du coup, c'est aussi le premier jeu à avoir inventé un peu le terme meeple. Meeple, qui est la contraction de my people. Donc, ça fait meeple. Voilà,
c'est... Alors on va renvoyer les auditeurs vers la chronique thermofromage de nos collègues Flavien et Père Castor. s'ils avaient parlé en long et en large et en travers de Meeple. Et effectivement, le Meeple serait originaire de Carcassonne, donc du jeu Carcassonne. Et c'est là qui, enfin, c'est ce jeu qui lui aurait donné sa forme finale.
C'est ça. Et ça, ça a été très dur pour nous de décrire le jeu sans dire Meeple. Hein. On a dû dire petit bonhomme en bois.
On a gardé le suspense.
On n'a vraiment pas l'habitude.
Et donc le principe en fait de ce jeu, c'est que le vainqueur va être celui qui aura marqué le plus de points de victoire. Sachant que chaque type de paysage va mettre des points d'une façon différente.
Voilà, donc vraiment rien de très compliqué. Donc je pense qu'on est bon pour l'explication du jeu. Maintenant, on peut peut-être dire pourquoi ce jeu est important dans le milieu ludique.
Alors c'est un jeu qui est sorti en l'an 2000. Donc le bug de l'an 2000 n'avait pas eu lieu. Tout s'était bien passé. Et on est à Essen 2000 et c'est 2000 boîtes qui se vendent rien qu'à Essen cette année-là. 2000 boîtes. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais à cette époque surtout, 2000 boîtes, c'est un chiffre mais absolument astronomique quoi. Je me demande même comment ils ont pu penser vendre ces 2000 boîtes. À mon avis, ils ont dû se faire réalimenter en cours de route. J'ai pas tous les détails, mais
ils se sont dit c'est l'an 2000, on en tire 2000.
Peut-être, ça. Ouais. Je sais pas. Donc c'est un jeu qui a eu un succès dès sa sortie et c'est un jeu qui a du coup assez logiquement remporté le Spiel des Jahres en 2001. Et c'est un jeu et d'ailleurs j'en profite pour remercier Hammer qui est allé nous collecter quelques informations sur des sites allemands qui du coup avaient peut-être un peu plus d'informations sur ces éléments-là. Donc merci à Hammer. Et donc grâce à Hammer, on a pu savoir que le jeu s'était vendu à 700 000 exemplaires rien que l'année 2001 en Allemagne. Et juste en Allemagne.
Ouais, c'est dire dans le monde, c'était le million sûrement.
Quoi. On reviendra, on a des chiffres un peu plus loin effectivement pour étayer un peu tout ça. Mais donc oui, hein, c'est un succès phénoménal. On est retourné un peu aussi sur des sites, je suis allé voir sur JeuSoc, qui est un site qui a existé déjà il y a très très longtemps. Et donc ils disent effectivement, ils constatent ce phénomène en 2000, 2001... d'un jeu qui remporte les prix, qui a un succès phénoménal, qui se vend partout, et d'ailleurs sur ce site ne s'explique pas très bien ce succès.
Ouais, lui il aimait pas trop le jeu a priori.
Alors on va y revenir après, hein. Effectivement il y a des petits reproches qu'on peut faire au jeu, mais bon, on va garder encore un petit peu de suspense. Donc c'est un jeu qui remporte, on l'a dit, le Spiel des Jahres en 2001. Il remporte également le Deutscher Spielpreis, donc dans la catégorie famille adulte. En bref, c'est un jeu qu'on retrouve cité un peu partout à cette époque-là. Et pourtant, ce jeu-là, c'est un jeu, aujourd'hui, si on regarde le classement BGG, il se trouve 128e, alors c'est pas nul, hein. Enfin, c'est pas du tout. Mais j'ai envie de dire que 128e.
Ouais, bon, c'est quand même bien.
Ouais, on est d'accord. Mais il est pas dans le top 100. En revanche, on va le trouver à la 21e place, classement famille. Là, on commence peut-être à entrevoir des choses. Et, son meilleur rang atteint, c'était 6e sur BGG. Alors qu'on a dit que c'était quand même un succès retentissant, phénoménal en Allemagne. Et c'est là peut-être qu'aussi qu'on voit la scission entre l'Allemagne et, les États-Unis. Surtout peut-être à cette époque-là. Parce que du coup, son rang de 6e, c'était sûrement, alors, j'ai pas la date exacte pour le coup. Mais ça devait être sûrement 2001, 2000. Et malgré donc un succès à 700 000 exemplaires en Allemagne, on ne trouve pas pourtant premier.
Après sixième, c'est déjà
bien.
Ah ouais,
d'accord. Ouais, d'accord. Mais on a quand même voilà.
Il y avait déjà d'autres Spiel les années précédentes et tout, donc.
Voilà, c'est un jeu qui a été édité en 28 langues, si on se réfère à BGG, en tout cas aujourd'hui. C'est un jeu qui a connu des extensions à l'appel. Alors, si on regarde BGG, encore une fois, on compte 93 extensions. Si on se fie au site allemand, on va référencer une dizaine de grosses extensions et puis une trentaine de plus petites extensions, des mini-extensions. Puis après, en fait, sur BGG, ce qu'on va trouver aussi, c'est les tuiles, les goodies, parce que là...
Ouais, là, il y en a pléthore. Là.
Ouais, on peut en parler aussi, hein, mais chez Onzim Gluck, c'est vraiment un... C'est devenu un produit phare. Tous les ans, les Allemands vont sur le stand de Hansim Gluck. Ils vont récupérer la petite tuile promo et puis des goodies. Parce qu'il y a aussi beaucoup de goodies autour de Carcassonne. C'est aussi, pour revenir sur les éditions, c'est aussi 6 big box. Donc là, c'est simplement des boîtes énormes avec le jeu de base. Plus, en général, je crois que c'est 4 ou 5 extensions qui sont à l'intérieur.
Ouais, un truc comme ça, c'est des grosses compiles, ouais. De plusieurs boîtes, quoi.
J'avoue que c'est la version que j'ai, moi, c'est une version comme ça, en fait. que j'avais acheté.
D'accord. T'as plusieurs extensions, toi.
Ouais, c'est ça.
Mais d'ailleurs, tu citais les goodies. C'est quand même rigolo de savoir que, ouais, il y a des petits meeples en peluche, des sous-verts avec des tuiles qui représentent les tuiles du jeu, quoi. En fait.
J'en ai.
Ouais, je sais.
j'ai aussi le porte-clés Carcassonne.
Et des bougies meeples aussi, quoi.
Non, ça, j'en ai pas.
Qu'est-ce que c'est que ça? Comment on peut faire ça?
Mais parce qu'il y a eu un énorme merchandising autour de cet objet, en fait, ce meeple qui est devenu finalement qui est devenu l'emblème des joueurs de jeux de société.
Un peu, ouais.
C'est aujourd'hui par exemple, quand on regarde aujourd'hui les logos par exemple de sites internet qui sont consacrés aux jeux de société, on en trouve beaucoup qui contiennent ce petit meeple.
Bah, mon avatar, c'est ça, moi.
Ouais. D'ailleurs, le mien aussi contient un meeple dessiné
ouais, voilà.
Et le logo de ces jeux contient un meeple.
Exact. Mais non, ouais, c'est vraiment devenu emblématique, quoi. Donc en fait, ils font du merchandising surtout autour des meeples, mais pas tant sur Carcassonne au final, quoi. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas. Enfin, tu me diras ça.
En fait, il y a les quand tu vas sur le stand de Dancing Gluck, la boutique Aeson, quand même orienté Carcassonne.
Ouais. Après, oui, les sous-bocs, par exemple, comme tu dis, ouais, là c'est vraiment des tuiles de Carcassonne. Là, il y a pas de doute. Ok. Là, je trouve ça rigolo de s'arrêter sur les goodies.
Si on continue un peu à déballer tous les faits qui montrent que c'est un jeu important. C'est un jeu qui a connu une refonte graphique en 2014. Donc, on a laissé de côté Doris Matheus et c'est Anne Pletzke et Chris Killiams qui sont arrivés au pinceau.
Et d'ailleurs, c'est pas une réédition, c'est juste une refonte graphique.
Exactement.
Parce que ça veut dire que le jeu n'a jamais arrêté d'être tiré depuis 2000. Donc,
jamais. Ouais. Il y a peut-être eu je pense qu'en peut-être en français, il y a peut-être eu un petit laps de temps parce que c'était chez Philosophia, donc il y a peut-être eu un petit temps mort.
Ah, c'est possible, ouais.
Mais en tout cas, c'est sûr qu'en allemand, ça a jamais dû s'arrêter.
Après, outre les extensions, tu as eu aussi les spin-offs.
Ah oui, alors là, oui, il y en a à l'appel.
Alors les spin-offs, c'est-à-dire c'est soit d'autres jeux. Donc il y a des versions avec des pirates, il y a des versions préhistoire, il y a des versions voyage, enfant, machin, avec parfois des règles qui changent un petit peu, mais bon, le système de jeu est le même, en fait. T'as aussi juste des reskins thématiques, genre le plus bizarre, c'est Carcassonne Star Wars, quoi.
Ouais, j'avoue que quand il est sorti celui-là, c'est un peu chelou, quoi.
C'est-à-dire que le titre de la boîte, c'est vraiment Carcassonne Star Wars.
Ouais.
C'est ça qui est bizarre, quoi. T'as une ville de France et Star Wars. Tu comprends pas le rapport, tu vois. Donc, je trouvais ça bizarre, moi. Mais je crois qu'il y avait aussi Catan Star Trek ou un truc comme ça, non?
Oui, ouais.
Ça aussi, Trek, hein, je comprends pas, hein, le rapport. Même.
D'ailleurs, alors là, ce sera intéressant de se rapprocher sur la question, mais je crois que pour Carcassonne, je sais pas si c'est pas les ayants droit de, enfin, ceux qui gèrent la licence de Star Wars qui sont venus voir, tu vois. Il me semble que c'est allé dans l'autre sens, quoi. En général, l'éditeur va demander une licence. Et là, je sais pas si c'est pas, j'ai un doute comme ça, j'ai une histoire
Star Wars
très
qui
en tête.
A voulu faire des produits.
Ouais, à vérifier, hein. Okay, je dis ça avec des pincettes, mais bon, je laisserai les gens un peu regarder. Ça donnera l'occasion de mettre un commentaire.
Ouais, mais si quelqu'un a l'info, ouais, dites-le nous dans les commentaires.
Je raconte peut-être une énorme connerie.
Voilà. En vrai, c'est le genre de truc que je trouve super absurde et que maintenant on a même ça, par exemple, avec Pandémie, quoi. Genre, t'as Pandémie, le truc de Rome, là, le dernier, là. Alors que c'est pas du tout une pandémie, en fait, quoi. Ça n'a plus rien à voir avec la maladie. Pandémie montée des eaux.
Parce qu'on est, on est sur le game system de Pandémie. T'as un auteur.
Ça,
en fait, ouais. Le principe de ces jeux-là, c'est que t'as Matt Leacock, donc l'auteur d'origine de Pandémie, et un autre auteur qui s'associe et qui font, et qui essaie quelque part d'amener un peu la patte du deuxième auteur, quoi.
Mais pourtant, il l'avait pas fait dans L'île interdite, tu vois.
Non, mais c'est Pandémie, le jeu phare, quand même, hein,
ouais,
avec,
oui, non,
en
mais
particulier
voilà,
le Legacy.
C'est vraiment utiliser les noms de licence, mais de manière très très absurde, quoi. Je trouve c'est un peu bizarre, voilà, moi, ça me titille un peu, quoi.
Donc voilà, donc oui, une quantité de spin-off assez impressionnante, hein, je crois que j'en ai dénombré, il me semble, une quinzaine.
T'as aussi des spin-offs qui ont carrément d'autres systèmes, hein. Là, t'as eu Carcassonne,
ouais,
et Carcassonne le jeu de dés, où là, du coup, ils gardent la thématique, le nom de la licence, ouais, mais là, c'est un jeu différent.
Oui, là, c'est l'inverse, en fait, du coup, de ce qu'on disait sur Star Wars. En fait, c'est un autre jeu, mais avec la licence Carcassonne, ouais, quelque part.
Mais là, ça me choque moins, parce que thématiquement, tu peux encore le caser dans Carcassonne, quoi, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Tout comme, je sais pas,
il y a des rappels au principe de Carcassonne,
voilà,
quand même, hein.
Exactement, ouais.
Typiquement, je sais que le jeu de dés, il faut assembler les phases des dés pour
faire des villes, ouais.
C'est ça.
Exact. Mais pareil, je sais pas, comme t'as les piliers de la terre, le jeu de gestion, t'as le jeu de cartes, t'as le jeu à deux, etc. Ou Agricola, voilà, et ça reprend des mécaniques du jeu de base, quoi. C'est pas juste un truc juste pour faire de l'argent, quoi, tu vois. Enfin, si, c'est pour faire de l'argent, mais tu vois, c'est... Il y a une cohérence artistique derrière, je trouve. Tu vois.
Bah, je sais pas s'ils ont fait tant d'argent que ça avec la version Star Wars. Hein. Je trouve pas super joli, en fait. Hein,
ouais,
en
je sais pas. Hein, j'avoue. Mais l'objectif, tu vois, l'intention me semble moins nauséabonde, quoi.
Moins mercantile.
Moins mercantile, ouais, quand ils font Carcassonne ou Carcassonne le jeu de dés, quoi. Parce qu'effectivement, ils se sont inspirés de Carcassonne pour faire un autre jeu, quoi.
Ok, t'es gentil.
Quand je suis gentil.
Moi, je pense que c'est tout autant mercantile de dire de surfer sur le succès de Carcassonne pour faire une version D, quoi.
Ouais, mais si on prend ça du point de vue de l'auteur, tu vois.
Oui.
En tant qu'œuvre, c'est moins dégueulasse, quoi, tu vois. C'est parce qu'il a quand même créé un autre jeu.
Ah, okay.
Tu vois, il s'est quand même embêté à créer un autre jeu, etc. Alors que là, Carcassonne, Star Wars, ils ont juste mis Star Wars par-dessus Carcassonne, alors que ça n'a rien à voir, tu vois. C'est. Il y a aucun effort, tu vois.
C'est quoi les moines dans la version Star Wars?
Je sais pas, j'y ai pas joué, je veux pas toucher à ça. Hein.
Ok. Donc, pour continuer, alors il y a eu aussi des adaptations en jeux vidéo. Donc des portages, hein, on va dire. Donc, sur PC, sur Android, sur iOS. Il y en a même eu sur Nintendo. Donc, je crois qu'il y a eu une adaptation sur la Switch là, qui est sortie il y a pas très très longtemps. Il y a même une adaptation sur PS4, il me semble.
Il y avait sur Xbox 360.
Ouais, aussi. Ce que j'allais dire, il doit y avoir aussi. Donc ça, c'est quand même assez rare de voir des jeux portés sur autant de supports, en fait. Hein. Portés tout court, oui. Je suis pas trop mal placé pour dire qu'il y en a quand même pas mal, l'air de rien. Mais sur autant de supports, pas ce moment. Il y a Les Aventuriers du Rail, sans doute aussi, qui est pas trop mal placé dans le genre.
Et Catan, ouais.
Pour conclure un petit peu ce chapitre, un chiffre qui, le dernier chiffre qui va impressionner, c'est en 2015, c'était 10 millions d'exemplaires vendus de par le monde Carcassonne.
C'est avec les Aventuriers du Rail, etc., c'est un jeu quand même qui a été le plus vendu, je pense. Si on exclut les Monopoly et tout.
Alors avec tout ça, si vous n'êtes pas convaincu que c'est un jeu qui a marqué le monde des jeux de société, au moins par ces chiffres, et ces quantités astronomiques de spin-offs, variantes, extensions, etc., je sais pas ce qu'il vous faut.
Bah, allez dans une boutique et vous verrez toujours un Carcassonne. En permanence, ça ne s'est jamais arrêté depuis des années. Ça se vend comme des petits pains, quoi.
Alors maintenant, est-ce que Carcassonne vaut tous ces chiffres de vente, tout ce pataquès, toutes ces extensions qu'est-ce qui vaut tout ça?
Alors, si on analysait tout ça.
Bah, allez, on est parti.
Allez. Alors du coup, bah déjà, on va parler un petit peu de la genèse du jeu, donc comment est née un peu l'idée dans la tête de son auteur.
Oui, ça nous donnera peut-être des indications sur d'où ça vient, etc.
Donc du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que c'était plutôt un an avant la sortie de Carcassonne, donc en 99, que Vrai2, donc l'auteur du jeu, se trouvait en France, du coup, dans la ville de Carcassonne. Parce qu'en fait, il est aussi, on en reviendra quand on parlera de l'auteur, mais il est aussi écrivain. Et donc, il cherchait de l'inspiration pour un de ses livres, et il a été un peu fasciné par les structures des remparts, etc., de Carcassonne. Et du coup, ça lui a, vu qu'il touchait un petit peu à côté à la création de jeux, bah, il s'est dit, tiens, il y aurait peut-être une idée à faire avec ça. Et bah voilà, quelques temps après, il a réussi à créer un petit prototype autour de cette mécanique. Il l'envoie à un autre éditeur. Alors à la base, il avait même déjà prévu un autre prototype qui sera plus tard un jeu qui s'appelle Mésopotamie, hein, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc il a envoyé ces deux prototypes-là à trois éditeurs allemands, et bah du coup c'est il pensait que c'était Mésopotamie qui allait mieux marcher que Carcassonne, qui serait édité en premier. Et finalement, bah, Hansing Gluck lui a proposé d'éditer Carcassonne en premier, donc... Enfin, d'ailleurs, Mésopotamie sera édité chez Phalanx en 5 ans plus tard. Et bah voilà, pour le coup, Carcassonne est sorti et ça a été un succès qu'il l'attendait pas forcément, quoi. Mais voilà, une idée qui est née à la base juste parce que bah il se promenait en France, quoi.
Carcassonne. Donc au moins le thème, on sait d'où ça vient.
Voilà. Même si on le sent pas forcément trop dans le jeu, le thème. Au final, c'est quand même ça qui l'a inspiré à la base. Donc c'est assez rigolo.
Ok. au moins les, on va dire les paysages en tout cas.
C'est un petit peu comme dans Puerto Rico, ce qu'on disait dans la première chronique, quoi. C'est pas un jeu qui brille forcément par sa thématique, mais bah, c'est la thématique qui a quand même inspiré le thème, quoi. Ou du moins c'est.
Enfin, au final, ça se rapproche pas tant que ça de Puerto Rico. En fait, ce qu'on peut sûrement imaginer, c'est que l'idée lui est venue de cet aspect de paysage, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, en regardant les paysages de Carcassonne, les remparts, tout ça, il a retrouvé finalement, voilà, en gros, il a découpé les paysages, il a fait un jeu avec, quoi, quelque part. Je pense que c'est là que se trouve effectivement le lien et l'inspiration. Maintenant, le thème, effectivement, dans Carcassonne, hein, parce que on va peut-être pas forcément épiloguer sur le sujet, on va peut-être passer un peu cette rubrique aujourd'hui, parce qu'il y a peut-être pas grand chose à dire sur le thème.
Non, le jeu est assez
mécanique, quoi.
Ouais, assez mécanique, ouais.
Alors, quelles pourraient bien être les inspirations qui ont permis d'arriver à Carcassonne? Parce que là, de cette petite histoire, malgré tout, on tire pas grand chose.
Bah déjà, ce qu'on peut dire, c'est que Carcassonne, c'est avant tout un jeu de pose de tuiles. C'est la mécanique à peu près principale. À chaque tour, on pioche une tuile, on la pose sur le territoire.
Est-ce que c'est une vraie mécanique, d'ailleurs, la pose de tuiles?
Alors là, c'est là que c'est compliqué, quoi. Parce qu'en fait, il y a plusieurs façons de poser des tuiles. On pourrait imaginer plusieurs types de mécaniques, et c'est vraiment quelque chose qui est pas nouveau depuis Carcassonne, en fait. On pourrait imaginer des jeux comme, effectivement, les dominos.
Ouais.
Ou même le Scrabble. En fait, on ne fait que poser des tuiles les unes adjacentes aux autres, et ça a une influence la manière dont on les pose. Mais là où ça va être différent dans Carcassonne, c'est que il faut que les côtés soient reliés, quoi. C'est-à-dire que là où il y a
le côté puzzle.
Ouais, le côté puzzle, comme tu dis.
C'est ce que je cite au départ.
S'il y a une route qui sort d'un bord de la tuile, il faudra qu'il y ait une route qui soit reliée quand on va placer une tuile de ce côté-là, quoi. Si j'ai une route qui part vers le haut, ça veut dire qu'au-dessus, j'aurai une tuile avec une route, forcément, quoi. C'est un petit peu dur à expliquer uniquement à l'oral, mais voilà, quoi.
Mais on va estimer que tout le monde a joué à Carcassonne au moins une fois dans sa vie.
À peu près. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on trouvait déjà avant, au final. On peut citer, par exemple, Tantrix.
Ouais.
Qui avait aussi ces systèmes de routes colorées.
C'était des lignes colorées, en fait, des chemins colorés. Ouais, fallait relier les uns avec les autres.
Après, on peut parler des dominos ou du Mexican Train, par exemple, où c'est justement, pareil. En fait, le bord du domino va déterminer quel chiffre de domino on doit mettre après, quoi. Si j'ai un 6, je dois mettre un 6. Enfin, là, pareil, je pense que tout le monde sait jouer au domino à peu près, donc ça ira. Donc, ouais, je suis pas sûr que ce soit une grande nouveauté, quoi. Après, je sais pas ce que toi tu dirais pour dire qu'un jeu serait un jeu de placement de tuiles.
J'ai essayé effectivement de réfléchir à la question, qui paraît pas simple. En fait, pour moi, le principe, en fait, poser une tuile sur un plateau de jeu, toi, c'est, il y a la dimension spatiale qui est importante. C'est-à-dire que la configuration du plateau et ce qu'on peut en tirer vont créer en fait les choix possibles. Alors que dans un jeu de cartes, il n'y a pas cette dimension typiquement. Toi, tu joues les cartes par rapport à ce que tu as dans ta main, pas par rapport à ce qui est sur le plateau. Donc c'est cet aspect-là, c'est l'aspect en fait où tu as quelque chose qui est partagé entre les joueurs au milieu qui va changer le principe du « je pose une carte » ou « je pose une tuile » finalement. Et au final, on y pose deux tuiles, mais on se raccroche, c'est assez étrange parce qu'en fait on se raccroche au matériel. Alors que on pourrait très bien avoir un jeu de cartes qui joue avec des tuiles et un jeu de tuiles qui joue avec des cartes.
Ça existe des jeux de cartes comme ça.
Tout à fait. Hein. Ouais.
Bandido, il marche comme ça. Hein, très récemment.
Oui, c'est ça. Ouais. Oui. En fait, c'est complètement. En fait, on pourrait le rentrer dans cette définition de jeu de tuiles.
Ouais.
Alors que c'est un jeu
de placement de cartes.
De
du
cartes.
Coup, ouais, c'est vrai. Ouais. Il rentre dans la définition de pose de tuiles, mais en général, les gens disent pose de tuiles, quoi. Dans les mœurs, c'est ce terme-là qui est utilisé, quoi.
Dans les deux, alors je reviens sur mon exemple, le jeu de cartes, jeu de tuiles. Dans les deux, l'aléa il est créé par la pioche en général. Bon, je parle un jeu de cartes en général, hein, voilà. Donc l'aléa il va être créé par la pioche, mais c'est la façon dont les gens vont jouer ensemble au milieu du plateau qui va créer la deuxième couche d'aléa et qui va donner en fait, qui va orienter les choix des joueurs.
Et du coup créer de la variété des parties, quoi.
Et là-dessus, Carcassonne, c'est assez imbattable, quoi, en termes de rejouabilité, de variété des parties. Alors c'est sûr, quand on s'arrête au jeu de base, on peut se dire qu'on a fait vite le tour de faire des villes, faire des chemins, mais en réalité, je sais pas quelle est la probabilité de faire un paysage identique d'une partie sur l'autre, mais
c'est infaisable. c'est pas parce qu'il y a plein de possibilités qu'elles sont forcément toutes intéressantes, tu vois.
Oui.
Forcément, t'en élimines plein. quand tu poses ta tuile. Tu vois. Bah du coup, ouais, partant de ça, on a listé ensemble quelques petits ascendants qui pourraient être des inspirations. Alors là, on n'est pas sûr hein, si c'est vraiment des inspirations de Carcassonne, mais au moins citer des jeux pour montrer que c'est pas non plus Carcassonne qui a inventé le jeu de pose de tuile.
Et voilà. Mmh.
Donc en premier, on avait mis peut-être éventuellement Acquire, donc de Sid Sackson, qui était sorti en 64. Bon, alors celui-là, c'est hautement contestable quand même, parce que c'est effectivement, on crée un plateau commun au milieu,
ouais.
Mais il n'y a pas cette dimension puzzle.
Il n'y a pas la dimension de puzzle. Voilà. Et en fait, après, tu as une dimension quand même où tu as ce plateau au milieu qui va faire interagir les gens et créer les contraintes de pose, quoi.
Voilà, mais bon, comme j'expliquais, c'est un peu comme le Scrabble, quoi. Tu as juste un plateau commun au milieu,
voilà.
Et tu poses des tuiles, quoi.
Le Take It Easy, qui lui est plus sur les connexions pour le coup hein, et qui est mécaniquement a rien à voir hein, c'est du bingo like en fait hein. Moi justement d'ailleurs les jeux de bingo souvent je les appelais take it easy like parce que take it easy ouais. Il me semble que ça doit être un précurseur en la matière sorti du bingo évidemment
ouais.
Qui est aujourd'hui décliné en plein de roll and write et d'ailleurs c'est un jeu qui est ressorti il y a pas très longtemps take it easy.
Ouais exactement et lui pour le coup qui utilise pas des carrés mais des hexagones.
Oui.
Voilà. Mais il y a comme dans Tantrix, il y a le principe des lignes colorées qui font que du coup là il y a un côté puzzle quoi, un côté association des lignes pour marquer des points quoi. Et qui est sorti en 83 celui-là pour le coup, donc il est vraiment bien bien ancien. Après du coup on avait dénoté aussi les jeux de train. Donc on va citer seulement 1830 le tout premier qui est sorti. Mais les jeux de train, effectivement.
On aurait pu parler de Edge of Steam, quand même, qui a fait un sacré buzz dernièrement.
Oui, mais il est sorti après.
Il est sorti après, bah, je sais bien.
Ça compte pas. Mais ouais, 1830, qui lui est sorti en 86. Donc pareil, il est très ancien. Et il y en a eu plein entre Carcassonne et 1830. Il y en a eu une chier des jeux de train. Mais bon, on va pas tous les citer. Mais ouais, eux, bah, comme dans Edge of Steam, hein, si vous avez joué à Edge of Steam, ils prennent des systèmes de chemin.
Ouais.
Alors là, d'une manière complètement différente, parce que là, l'objectif, c'est de relier
c'est
des
de la
villes
livraison aussi, ouais.
Pour faire des points de victoire, machin. Donc, bon, c'est pas la même mécanique finale, ouais. Mais le système de pose de tuiles est relativement dans le même style, quoi. Faut relier des rails, quoi, entre eux. Alors après, ouais, contrairement à Carcassonne ou Take It Easy, y a pas de couleur, y a pas de choses comme ça, quoi. C'est-à-dire, tu poses ton rail, faut juste que ça matche avec un rail. Voilà, y a pas de couleur ou de choses comme ça.
Ouais. En fait, pour le coup, les deux derniers qu'on a cités, ils ont la dimension puzzle, mais ils n'ont pas l'autre dimension du jeu de pose de tuiles.
Take It Easy un petit peu quand même. En quoi tu dirais qu'il n'est pas pose de tuiles? Après, Take It Easy, chacun joue dans son coin aussi.
Parce que justement, ouais, t'as pas le côté où on joue tous sur le même plateau.
Ouais, c'est ça. Alors que 1830, t'as le côté où on joue tous sur le même plateau.
On joue tous sur le même plateau.
Mais il n'a pas le côté trop combinaison de tuiles, quoi.
Ouais.
Faut
ouais,
vite c'est fait pas... relier des rails, mais y a pas.
Parce que on l'a pas dit, mais dans Carcassonne, faut vraiment jouer justement sur la contrainte de pose. C'est-à-dire que quand tu veux faire chier un adversaire, il faut jouer sur le fait que d'aller lui mettre une tuile qui va faire que il est quasi impossible de compléter son paysage. Quoi.
Mm-hmm. Ouais, ouais, tu peux faire un petit peu ça dans 1830 aussi. Hein, mais...
Ah, alors là, tu vois, ça me viendrait même pas à l'idée tellement il y a déjà à faire pour gagner soi-même, quoi.
Non, mais voilà, dans la théorie, c'est un peu, mais voilà, c'est l'histoire de citer des ancêtres, hein, de toute façon. Après, en 91, on avait Wacky Wacky West, un jeu de Klaus Teuber, donc le papa de Catan plus tard, qui lui, c'est intéressant parce que effectivement, il a un principe aussi de tuiles, et pour le coup, il y a des tuiles de une case, des tuiles de deux cases et des tuiles de trois cases. Donc ça, là, il y a limite déjà une innovation un peu plus là-dedans. Que dans les autres qu'on a cités. Et pareil, là, il y a un plateau commun. Je crois qu'il y a des contraintes de pose, parce qu'on est en train de faire une rivière, donc il me semble qu'il faut que ça matche la rivière, mais enfin, ça matche, que ça corresponde les tuiles à la rivière. Quoi. Mais je suis pas certain 100%, de toute façon, j'y ai jamais joué, donc voilà. Par contre, ce qui correspondrait plus, c'est un autre qui est sorti aussi de Klaus Teuber en 96, c'est Hans Decker, qui là pour le coup a des contraintes de pose, donc là c'est vraiment un jeu de pose de tuiles, ça pourrait être l'ancêtre le plus proche de Carcassonne.
En plus complexe.
Oui sûrement ouais. Je t'avoue que j'y ai pas joué, mais de ce que j'ai lu des reviews, ça a l'air d'être un jeu un peu plus complexe.
Ouais.
On peut citer aussi Metro de Dirk N qui est sorti en 97, donc là c'était chez les Queen Games. Lui c'est intéressant parce qu'il utilise de la pose de tuiles, un peu à la Tsuro. où en fait tu as deux coins de chaque côté, enfin deux routes qui sortent de chaque côté de la tuile. Donc en fait t'as 8 routes qui peuvent être reliées. Et donc là c'est plus tu vas relier des routes
la
pour
connexion,
essayer
quoi.
De connecter
des choses. Avec le titre métro. Déjà.
Ouais bah oui voilà.
On crée des lignes de métro qui s'entrecroisent, etc.
C'est ça. Mais là du coup tu cherches vraiment à bloquer des lignes, à construire des lignes, etc. Donc, bah là ça se rapproche
comme
aussi.
Comme on peut avoir dans un Indigo, tu peux t'amuser à essayer d'envoyer ton adversaire sur une route. Qui est pas
c'est ça bah ou tour hein, c'est
pas la meilleure ouais oui c'est, oui, même, bon, principe. C'est le même principe d'ailleurs
ouais.
Et puis il y a Tigre et Euphrate de Knizia qui aussi est un jeu qui peut rentrer dans la définition du jeu de pose de tuiles, alors qui pour le coup n'a pas la dimension puzzle non plus, mais le placement de la tuile sur le plateau va vraiment engendrer des choix et des contraintes importantes pour les joueurs, enfin des contraintes non en fait mais des choix pour réussir à atteindre ses objectifs. Donc en gros, on est quand même loin d'être sur un jeu innovant.
Non, il y avait déjà beaucoup de jeux de pose de tuiles avant.
Et même si on regarde après, on s'est pas trop attaché, c'est vrai, au système de score. Mais là, c'est pareil en fait. Il y a rien de particulier en fait dans Carcassonne.
Alors après, outre le système de score et la pose de tuiles. Je dirais qu'il y a quand même un élément que je trouve assez malin dans Carcassonne. Je sais pas s'il est vraiment innovant, mais c'est ce fameux système de pose de meeple, quoi. C'est-à-dire que t'as le droit de poser ton meeple que sur la tuile que tu viens de jouer.
Ouais.
Et tu le récupéreras que quand le lieu est complété. Je sais pas s'il y avait, je crois pas qu'il y ait cet aspect-là dans d'autres jeux avant, ni même trop après.
C'est de la pose d'ouvrier?
Waouh. C'est de la pose d'ouvrier dans
non,
le temps.
Non, je ne pense absolument pas.
Mais sans rire, il y a peut-être un côté pose d'ouvrier, parce qu'une fois que tu as posé ton meeple, on n'a plus le droit de se mettre sur la même route que toi.
C'est pas faux, c'est pas faux. Ouais, il faudra qu'on revienne
à Cariatre,
dans la définition.
Si tu nous écoutes, il faudra que tu nous répondes. Mais oui, tu vois, cet aspect, je dois me poser tout de suite, ou sinon je pourrais
jamais
me poser. Voilà, c'est maintenant ou jamais.
Enfin, en tout cas, pas sur cette tuile-là.
Voilà. Et si je le fais, l'inconvénient, c'est que je perds un meeple et que j'ai un stock limité de meeple et que je sais pas quand est-ce que je le récupérerai parce qu'il faut que j'attende qu'un lieu soit terminé. Pour moi, c'est cette mécanique-là qui est vraiment nouvelle dans Carcassonne. Et je suis pas sûr de l'avoir vue dans d'autres jeux.
Non, après c'est difficile de dire que c'est, tu vois, pour moi c'est plutôt une espèce d'assemblage que vraiment une mécanique en tant que telle. D'ailleurs, on n'a jamais mis un nom sur ce truc-là.
Bah non, ouais.
En fait, c'est le système de Carcassonne, quoi.
Mmh,
ou alors justement parce que c'est pas exploité spécialement ailleurs, c'est le système de Carcassonne.
C'est très étrange d'ailleurs qu'un jeu avec autant de succès, personne n'ait recopié cette mécanique.
Bah, c'était pas possible. T'as vu le nombre d'extensions qui est sorti, le nombre de spin-offs. En fait, si tu veux, ils ont phagocyté la possibilité, je pense, peut-être de faire d'autres jeux de ce style, non ?
Non, mais tu pourrais faire un autre jeu pas de la pose de tuiles,
ouais.
Mais qui pourrait utiliser cette mécanique, tu vois.
Oh, je pense que ça existe en revanche.
D'accord. Enfin, ouais, voilà, effectivement, c'est pas une mécanique qui est non plus méga transcendante, hein, mais je trouve qu'elle est assez intéressante pour rendre le jeu assez plaisant, quoi,
ouais.
Et te donner des petits choix intéressants à faire. Et je suis assez étonné qu'elle ait pas été plus utilisée que ça. C'est peut-être parce qu'elle est pas si intéressante que ça dans d'autres contextes, hein, j'en sais rien. Mais pour moi, voilà, c'est vraiment le seul truc innovant dans Carcassonne. Après, c'est vrai que ce qu'on retient le plus, c'est le côté pose de tuiles.
Ouais.
Parce que ouais, c'est le truc que tu manipules le plus dans le jeu. À la fin, c'est ce qui fait que t'as un beau paysage, tout ça, quoi.
Je pense que ce qui a contribué aussi au succès de Carcassonne, c'est que c'est un jeu qui peut se jouer de différentes façons. C'est-à-dire que tu peux vraiment jouer finalement chacun dans ton coin, construire ton bout de paysage, et tu peux jouer avec énormément d'interactions. Ou comme je disais tout à l'heure, en fait, tu vas aller emmerder l'autre, aller lui rajouter, genre il est en train de construire une ville, tu poses la fameuse tuile là, qui est 100% ville, et du coup il faut qu'il referme trois côtés au lieu d'un. ce genre de truc, quoi.
Puis tu peux même voler du coup un peu, bon ça on l'a pas expliqué, mais tu sais, si tu arrives à relier deux tuiles, une où il y a le meeple de l'adversaire et une où il y a le tien,
ouais.
Tu sais, tu scores avec lui, etc. Enfin...
Ouais, il y a une dimension un peu casse-tête à se dire comment je peux réussir à venir shipper les points de l'autre. Alors tu chimes jamais parce qu'en fait tu partages.
Oui.
Le truc le plus violent, c'est le principe des paysans. Bon, on va pas forcément rentrer dans le détail, mais c'est l'aspect majorité du jeu. Enfin l'aspect principal, parce qu'en fait ça marche aussi dans les villes, etc. Mais bon, tu le fais quasiment jamais dans les villes.
Si, parfois quand même.
En général, tu arrives à partager les points, mais pas à dire je vais te les piquer, quoi.
Ah oui, voilà, c'est ça que tu veux dire, oui. Je veux jouer deux meeples pour buter l'autre.
Ouais.
Oui, ça, je suis d'accord. Ouais.
voilà. C'est plus l'aspect des paysans là, qui en gros à la fin ces pions là ne vont compter qu'à la fin. D'ailleurs ils rendent aussi énormément dans l'aspect prise de risque, puisque celui-là tu sais qu'il va rester là jusqu'à la fin. Quand tu poses un paysan, il est là jusqu'au bout de la partie.
Ouais. Enfin,
C'est d'autant moins de meeples que t'as à ta disposition.
Ouais, c'est aussi un aspect intéressant, je trouve, aussi du jeu. Enfin, ouais, pour moi, ouais, cette mécanique de gestion de meeples est vachement intéressante, quoi.
Après, j'avais marqué un peu comme une provocation, du coup, comme il y a plein de façons de mettre des points différents. Est-ce que c'est de la salade de points? Toi qui en as parlé dans une chronique.
Alors, non.
Merci.
non, je pense pas que c'est de la salade de points parce que. Normalement, la définition de la salade de points, c'est que quasiment toutes les actions que tu fais vont te marquer des points, quoi. Alors que là, placer une tuile, ça te met pas de points. C'est quand tu mets ton meeple que tu décides si tu mets des points ou pas, si tu prends le risque de gagner des points, etc.
Surtout, la salade de points, en général, ça joue sur c'est moi qui en ai fait le plus, donc des aspects de majorité, des aspects de collection, des aspects de... En général, t'as vraiment plein de façons de mettre des points différents. Dans Carcassonne, en tout cas, le jeu de base, encore une fois, sur le jeu de base, t'as deux grandes façons de marquer des points. C'est les paysans d'un côté et les autres qui... Ça revient toujours un peu au même, quoi. C'est au nombre de tuiles qui est autour, qui composent ton bout de paysage, que tu mets des points.
Et surtout, dans la salade de points, il y a toujours un aspect où tu dois avoir du mal à calculer ton score. En général, si une salade de points est bien faite, t'as du mal à évaluer à l'avance combien tes coups vont rapporter, ce qui donne de l'intérêt au jeu, normalement. Parce que...
Une salade de points bien faite, tu sais pas ce qu'il y a dans ta salade, quoi, c'est ça?
C'est ça. Mais parce que du coup, parce que si tu sais ce qu'il y a dans ta salade, tu peux être sujet à l'analysis paralysis. Mm-hmm. Alors que si tu sais pas calculer, en fait, normalement, ta salade de points, c'est bon, tu sais que cette stratégie-là sera potentiellement celle qui te donnera le plus de points, quoi, tu vois. Bon. Alors du coup, on a cité, les ancêtres de Carcassonne.
Une
pelletée, ouais, voilà. Toujours dans ces aspects pose de tuiles, on peut se demander qu'est-ce que Carcassonne a inspiré ensuite comme
qu'est-ce
autre.
Qu'est-ce qu'il a engendré?
Qu'est-ce qu'il a engendré comme style, on va dire, de pose de tuiles?
Alors, peut-être un des jeux parmi les plus récents qui a beaucoup été comparé à Carcassonne, pas forcément super super pertinent parce que le feeling est vraiment pas le même, c'est Isle of Skye.
Ouais.
Donc qui est un jeu qui a été édité en français chez Funforge et qui est un jeu de Alexander Pfister et Andreas Pelikan. et donc oui, qui a été sorti chez Funforge et alors qui reprend le principe en fait du puzzle, alors pas complètement en plus hein, parce que je crois qu'on peut couper les routes dans dans Isle of Skye. Et il y a un système de pause qui effectivement faut respecter le paysage hormis les routes, mais qui se base sur de l'enchère, un système d'enchère un peu particulier, mais on va dire de l'enchère. Et donc il va falloir réussir à gagner des tuiles pour pouvoir les poser, en gros.
Et surtout le plateau est pas commun.
Oui, c'est vrai.
Chacun a son propre plateau.
Ouais. Ouais, ça c'est, du coup, c'est hyper important par rapport à ma définition personnelle à moi de la pose de tuiles. Du coup, oui, le feeling est vraiment complètement différent. On n'est pas du tout dans le même style de jeu en termes de catégorie de public. On est vraiment bien, bien au-dessus,
plus expert,
bien plus complexe. Ouais. Ça va au moins inspirer les illustrateurs pour faire les illustrations, les tuiles carrées et les assemblages.
Après, on a eu, dans les exemples connus, il y a eu Takenoko aussi. Alors là, c'est avec des tuiles hexagonales. Il y a pas de côté puzzle.
Non, il y a pas de côté puzzle. Non,
ouais, mais t'as aussi un côté pose de tuiles dans un espace commun. Bon, là, la différence, c'est que tu vas carrément faire pousser du bambou sur les tuiles, etc.
Ouais.
Donc, bon, voilà, il y a un aspect vraiment différent en termes de gameplay, quoi.
Là aussi, je trouve que quelque part, finalement, on s'éloigne pas mal. Maintenant, ça reste des jeux qui, effectivement, si on regarde sur BGG, on va voir Tile Placement, il me semble.
Ah oui, non, mais alors, Tile Placement, j'ai regardé un petit peu. Y a des jeux qui sont dedans, je comprends juste pas. Hein. Après un moment où tu places des tuiles en début de partie, c'est du Tile Placement, quoi. Tu vois,
Donc bon, bref, ça, on va dire qu'on conteste un peu. En revanche, Cacao, qui, lui, à mon sens, s'en rapproche beaucoup plus. Alors, c'est un jeu de Phil Walker Harding, et pour le coup, il est complètement dans le même type de public. Alors, on place pas vraiment des meeples, c'est un petit peu particulier, parce qu'en fait, les meeples sont déjà dessinés sur les tuiles, et le côté puzzle, en fait, va être plutôt sur le fait qu'on va construire une sorte de damier, donc on a une contrainte sur l'alternance des tuiles qui sont posées, en fait.
Ah, c'est intéressant, c'est une petite innovation là-dessus, sur le côté pose de tuiles, pour le coup. Après, on a aussi, très récemment, qui a gagné le Spiel, King Domino,
ah oui,
de Catala, qui lui pour le coup garde une dimension puzzle au final, mais c'est pas de la même manière que Carcassonne ou
non, parce que c'est pas strict, mais... c'est pas aussi strict que dans Carcassonne, ouais, où vraiment tous les côtés doivent respecter la jonction.
Ouais, on n'est pas contraint à un côté en fait. C'est-à-dire qu'il faut simplement qu'il y ait un paysage adjacent en commun, quoi.
Ouais, c'est ça.
Au moment où on place cette tuile.
Et pour le coup, l'inspiration, il me semble, vient bien des dominos, pour le coup.
Ah bah là c'est carrément la règle des dominos. Ouais. Voilà. Comme dans les dominos, il faut qu'il y ait un côté adjacent identique, c'est tout, quoi.
Et donc, du coup, c'est une inspiration vraiment des dominos, et pas de Carcassonne, je pense. Alors, certes, on peut te dire que peut-être il a eu l'idée parce que quelque part, Carcassonne, ça existe, mais voilà, je pense qu'on ne peut pas donner la paternité à Carcassonne de King Domino. Et King Domino, c'est toujours pas un plateau commun.
Non, toujours pas.
Alors que Cacao, ça l'était, je l'ai pas précisé, mais Cacao, ça l'était. En fait, on fait des descendants, mais il y en a aucun dedans, quoi.
Après, donc, ouais, je sais pas s'il est très connu en France, mais il y avait Castles of Mad King Ludwig, qui était édité chez Bézier Games. Alors lui, je l'ai juste noté parce que, en termes d'innovation, en fait, c'est plus des tuiles carrées, c'est des tuiles qui ont toute une forme différente. Ouais. Il va y avoir des grosses pièces, des petites pièces, etc. Et quand on les place, il faut que ça matche physiquement, en fait. Ouais. Il faut que ça n'écrase pas une autre tuile, en fait. Ouais. C'est-à-dire que la contrainte n'est plus sur comment tu relis tes tuiles, mais sur comment tu...
Elle est vraiment spatiale, pour le coup.
Ouais, vraiment spatiale. Ouais. Ça, je trouvais ça intéressant, ouais, juste pour le dénoter rapidement, quoi. Après, on a Génial de Knizia, donc là qui joue aussi avec des dominos au final, puisque c'est des doubles tuiles. Alors là, il n'y a pas de contrainte de puzzle, etc. Donc ouais, je sais pas si ça match encore avec ta définition ou pas.
Ouais, je sais pas. Après, j'ai peut-être pas la bonne définition, mais le problème, c'est que si on arrête la définition à je pose de la tuile, voilà, on est sur tous ces jeux-là. Ça marche.
Oui, c'est ça, voilà. Si des jeux posent de tuiles.
Carcassonne, c'est un peu différent de ça, en fait, quand même. Ouais, ouais. Regarde le feeling, il est quand même au-delà de tout ça.
C'est vrai.
Parce que pareil, dans Castle of King Ludwig, tu joues que ton côté, quoi. Enfin, tu joues, c'est ton château que tu fais.
En tout cas, dans Génial, le plateau est commun.
Et puis on a cité aussi alors Talouva, qui pour le coup respecte vachement mieux le principe.
Il y a pas le côté puzzle.
Sauf sur l'aspect en fait quand tu vas écraser. Et en fait le puzzle il est plus dans la partie 3D.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire?
Oui ouais.
Il est plus dans la partie en hauteur.
Ouais, mais sur l'horizontal, tu n'as pas de contraintes.
Enfin, dans Talouva, c'est plus des espèces d'interdictions, en fait. Pas puzzle au sens où tu vas devoir poser un paysage par-dessus le même paysage, mais c'est plus que tu peux pas le poser par-dessus certains autres, quoi.
Après, au final, c'est plus dans des jeux qui ne sont pas des jeux de tuiles qu'on va retrouver plus ce principe de puzzle. Je pense par exemple à Claustrophobia. Quand tu vas révéler une tuile paysage, tu as des chemins et tu dois faire en sorte que les chemins soient reliés entre eux ou non.
Ouais.
Tu vois. Ouais. Ou à Zombie, le jeu américain là, Zombie avec 3 points d'exclamation. Ouais, pareil, tu vois des chemins, des choses comme ça, ou un peu tous les jeux de dungeon crawling aussi. Je pense que t'as des choses comme ça à mon avis, des aspects. Ouais, t'as des cartes avec des chemins, il faut suivre les chemins ou non, quoi.
Ouais, mais pour le coup là, on est sur de la connexion, on est sur l'héritage Carcassonne, on est zéro, quoi.
Ouais, oui, non, on est plus sur l'héritage de labyrinthe ou des trucs comme ça. Non, c'est vrai que finalement, y a pas tant de, y avait pas Sapiens aussi.
Sapiens, système de domino, je crois qu'effectivement tu dois respecter un... Mais là, pareil, je pense que l'inspiration elle est vraiment dans le domino et pas dans Carcassonne.
Ah ouais, c'est vrai. Non, du coup, au final, c'est assez difficile de trouver des vrais héritiers à 100%.
Ou alors on a un peu séché. Moi, je vois, enfin, en tout cas, Cacao, oui, il y a un feeling Carcassonne. Dans les autres, oui, un peu moins, quoi.
Si t'es viking, mais pareil, viking, c'est que en 2D, quoi. C'est-à-dire que c'est que horizontalement que tu dois respecter. En fait, t'as plusieurs lignes. Et à chaque fois, ta tuile doit suivre le... Là, tu dois vraiment relier. S'il y a une île, tu dois avoir un autre morceau d'île de l'autre côté. Si t'as de la flotte, tu dois avoir de la flotte de l'autre côté.
C'est quelque chose.
Mais c'est que horizontalement, quoi.
C'est viking tout court?
Ouais, viking tout court.
C'est jouer avec viking.
Viking. Bon, voilà. Donc, du coup, après, si vous avez des idées de jeux qui utilisent beaucoup ce principe, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, parce que sur ce
coup-là... Qui se rapproche un peu plus de Carcassonne, peut-être même mieux que Cacao, pour le coup. Mais, est-ce que, effectivement, ce que je disais un peu précédemment, le fait qu'il y ait plein d'extensions, le jeu a été réexploité sous la forme de spin-off, etc. Est-ce que quelque part ça n'a pas phagocyté la créativité sur ce principe de jeu ?
Ouais, peut-être. Bah, ou peut-être tout simplement qu'en fait c'est les jeux qui utilisaient ce principe sont tombés dans l'oubli en fait.
Peut-être.
Parce qu'ils n'arrivaient pas à se confronter à Carcassonne, quoi.
Peut-être, ouais. Et alors on n'a pas parlé de la dimension justement game system de Carcassonne. Enfin, on l'a évoqué en fait, hein. On l'a évoqué en faisant une porte ouverte. C'est-à-dire en gros le principe, on l'a dit, hein, c'est je pose une tuile et je pose un meeple dessus. Ça a été un petit peu détourné dans différentes extensions ou dans certaines extensions on va rajouter. En fait, il y a un peu de tout dans toutes les extensions. Enfin, moi, j'ai pas joué à des tonnes, mais vu le nombre d'extensions qui existent, on se doute des quelques-unes auxquelles j'ai joué que le jeu est allé dans des recoins un peu différents où on va trouver des systèmes de score différents d'une extension à une autre, qui vont être spécifiques à une extension avec des types de paysages différents, des types de meeples différents, etc., etc.
Il y en a même une avec une catapulte.
Oui, j'avoue que je sais même pas ce qu'il en est. Mais je crois que tu lances vraiment, il y a un système de vraie catapulte. Quoi.
Oui, ça devient un jeu de dextérité.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Tu tires tes meeples à la catapulte.
Ouais, c'est ça.
C'est génial.
Ouais, ça devient encore plus super aléatoire.
C'est fou qu'ils aient fait ça.
Voilà, bah ça c'était le jeu. Et maintenant, on parle un petit peu de son auteur. Donc, Klaus Jürgen Bredow, né en 1963 en Allemagne. Ça lui fait quand même 56 ans, ce jeune homme.
Et oui.
Cette année. Joyeux anniversaire. Non, je sais pas. Alors, c'est quand même quelqu'un qui était, à la base, c'était déjà un joueur. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pas un perdreau de l'année. C'est quelqu'un qui était visiblement professeur de musique et de théologie dans un lycée à Cologne. Ça, c'était jusqu'en 2009. Ensuite, il a arrêté. Et il s'est visiblement suffisamment enrichi avec Carcassonne et donc, il est capable d'en vivre maintenant. Donc, il vit du game design. On reviendra après sur les autres jeux qu'il a créés. C'est quelqu'un qui est plutôt un touche-à-tout. C'est plutôt quelqu'un de créatif. Hein. On le voit déjà à son CV, hein, très réduit qu'on a fait. Le pauvre. Mais effectivement, professeur de musique. C'est quelqu'un qui a eu un prix de composition, je crois. Je sais plus quel âge, 16 ans, je crois, c'était. On en parlait dans l'histoire de la jeunesse de Carcassonne. Il était parti dans le sud de la France pour écrire un roman. Et son roman, en fait, il a vu le jour en 2015.
Donc 15 ans après.
Il a mis le temps. Mais il est sorti en 2015. Et donc, comme c'est... Enfin, je sais pas si c'est amusant ou pas, mais c'est un profil plutôt littéraire.
Ouais.
Alors qu'on pourrait dire que dans le game design, l'atout, il serait peut-être plutôt dans les mathématiques.
C'est vrai, mais bon, après, c'est... Le jeu de société, c'est aussi une œuvre, et du coup, moi, je trouve c'est important aussi d'avoir des aspects littéraires, artistiques, etc. Et du coup, ouais, effectivement, lui, il fait de tout, quoi. Il fait de la musique, il écrit des bouquins, il fait des jeux. C'est vraiment un profil très créatif, comme tu dis. Du coup, on peut parler des autres jeux qu'il a créés, pour peut-être comparer un petit peu avec Carcassonne, voir si ça s'inscrit dans quelque chose ou pas. Faut savoir que Carcassonne, ça a été son premier jeu édité, quand même, hein,
oui.
En 2000.
Ça, c'est pas trop mal hein, pour un début.
Bah ouais, quand même, il y a pire, hein, franchement.
C'était le ball gang marche de l'époque. Hein.
Du coup, il a sorti pas mal de jeux. Alors, il y en a quelques-uns qui sont un peu tombés dans l'oubli, donc ouais, c'était plutôt les plus connus. Et encore, quand on dit plus connus, ils sont peut-être un peu connus en Allemagne, mais voilà. Quoi. Donc le premier que j'aurais envie de citer, c'est The Downfall of Pompeii. Donc il n'y a pas d'édition française, donc je peux pas le dire en français, mais La Chute de Pompeii, peut-être ça se dirait en français. Qui est sorti en 2004 chez Mayfair et Amigo. Et ce qui est intéressant, en gros, je le fais très très résumé, vous avez deux phases de jeu. Pendant la première phase, vous placez des petits bonhommes dans une ville, donc dans Pompéi, hein, avec un système de cartes, pas très compliqué. Et ensuite, il y a une deuxième phase où le volcan va entrer en éruption. Et donc là, il va y avoir de la pose de tuiles, où en gros, on va faire avancer la lave pour buter les habitants des adversaires.
Ah,
et en excellent. Même temps, à chaque tour, tu fais avancer la lave et tu déplaces tes bonhommes pour les faire essayer de s'échapper de la ville, quoi. Donc le système de lave, c'est un petit peu à la SOS Dino. Tu vois,
oui, je vois bien.
Il y a plusieurs endroits où il y a de la lave et tu les fais se déplacer, quoi. Alors, je sais pas si pour SOS Dino, ils se sont inspirés de ce jeu-là. Peut-être que Théo Rivière nous le dira dans les commentaires s'il écoute.
Il y a assez peu de chance quand même, je pense. Parce que bon, le principe de faire couler la lave avec des tuiles, c'est pas non plus dit que je vais représenter de la lave qui coule. Bon, je pense que je suis désolé Théo Rivière hein, si t'as mis 6 mois pour le trouver, mais bon.
Là, ils sont en plusieurs dessus.
Connecter des tuiles les unes en plus, hein, putain.
Ensuite, l'année suivante, il a sorti pareil un jeu qui est moyennement connu, c'est Mésopotamia, qui était chez Phalanx.
Le fameux, c'était le deuxième qu'il avait présenté.
Exactement, ouais, le deuxième qu'il avait présenté en prototype et qui pensait qu'il était meilleur que Carcassonne. Celui-là, en fait,
ne lui donnera pas raison.
Non, l'histoire ne lui donnera pas raison. Il utilise aussi un système de pose de tuiles. Alors lui, en fait, bah, c'est un peu l'autre grande famille des poses de tuiles, c'est via de l'exploration. C'est-à-dire qu'on a des petits bonhommes, on va les déplacer, et quand on explore vers de l'inconnu, ça révèle une nouvelle tuile qu'on va placer, et hop, notre bonhomme se trouve dessus, quoi. Donc ça, c'est un principe assez intéressant. Bref, ça utilise de la pose de tuiles d'encore une autre manière. Et pour le coup, c'est une espèce de jeu de gestion, quoi. Il y a des ressources, il faut essayer de récolter les ressources pour fabriquer des trucs et aller faire une offrande aux dieux sacrés, je sais pas quoi. Après, il a fait en 2011, il a fait un jeu qui s'appelle Rapa Nui, qui est sorti chez Cosmos. Ça fait partie de la gamme des jeux un peu deux joueurs de chez Cosmos. Même s'il peut jouer jusque 4, théoriquement, mais c'est un peu comme Carcassonne, quoi. C'est un jeu qui est fait pour être joué à deux, quoi. Et qui a été réédité en 2017 chez White Goblin Games, sous le nom de Bali. Donc ce jeu-là, c'est aussi un jeu de gestion. Vous avez des ressources, vous essayez de gagner des points de victoire, construire un petit tableau building, comme on disait, le terme qu'on utilisait dans Puerto Rico, oui, hein, construction de tableau. Là, c'est du tableau building sans effet. C'est simplement, vous allez vous construire en fait un tableau building de bonhommes qui vont vous produire des ressources. Donc je vais me mettre des bûcherons, je vais me mettre des mecs qui vont dans les champs, etc. Et quand ça va produire, je vais gagner autant de ressources que de bonhommes que j'ai devant moi, quoi. Ouais. Donc vous construisez un tableau au fur et à mesure. Et donc la mécanique qui est assez intéressante dans celui-là, c'est qu'en fait, quand vous allez repiocher une carte à la fin du tour, en fait, vous avez des colonnes de cartes qui sont visibles. Donc, vous voyez, c'est des colonnes de 4 cartes au début. Donc, on voit toujours les 4 cartes qui vont venir dans cette colonne, quoi. Donc, il y a 4 colonnes. 4 colonnes de 4 cartes, hein, ça fait un carré de 16 cartes. Et donc, quand vous ramassez une carte dans une colonne, donc c'est la carte que vous prenez dans votre main, ouais, et la carte qui vient d'être révélée juste en dessous, donc vous savez ce que c'est, puisqu'elles sont toutes les 4 visibles, hein, de toute façon, ouais, elle va déterminer quel est le décompte qu'on fait ce tour-ci. Donc elle va déterminer quelles sont les ressources qui vont être produites ce tour-ci.
D'accord.
Voilà. Donc du coup, il y a un petit côté, je vais prendre cette carte-là plutôt qu'une autre parce que ça va me faire produire 3 blés alors que l'adversaire, ça lui fait produire que 2 blés, quoi. Voilà. Je trouve que c'est une mécanique assez intéressante. J'ai jamais joué au jeu, mais moi, je trouve ça plutôt malin. Et cette mécanique, il va la réutiliser en 2016 dans un jeu qui s'appelle The Architects of the Colosseum, qui a été édité en 2016 chez Schmidt, et où en gros, le principe, c'est que vous devez construire le Colisée. Donc là, c'est du collection set, donc c'est-à-dire qu'on collecte, on va collecter des sets de ressources. Mm-hmm. Quand j'ai une bleue, une jaune, une verte, je peux construire un morceau de Colisée, ou alors deux rouges, une noire. Enfin voilà, c'est à moi de faire des petits lots de ressources, quoi. Et la manière dont on va collecter ces ressources, c'est de la même manière que dans Rapa Nui ou dans Bali. C'est vous ramassez un petit machin qui va se mettre devant vous et qui va vous faire un tableau building, quoi. Et la tuile qui est en dessous, ça détermine qu'est-ce qui est produit ce tour-ci. Exactement le même principe. C'est un petit peu différent, évidemment, mais ça réutilise cette mécanique-là.
Et le dernier en date, c'est Blocks, qui est un jeu qu'on a eu l'occasion d'essayer à Essen. On en a dit 2-3 mots en débrief, qui est un jeu de Roll and Write. Donc, c'est le jeu de Roll and Write de Klaus Jürgen Wrede, hein, puisque chaque auteur se doit visiblement de faire un Roll and Write. Et que personnellement j'avais trouvé pas trop mal parce qu'il y avait un peu d'interaction dedans, voilà. Bon, avec un principe de tétramino, hein, en plus, non, pas côté tétra d'ailleurs, non, ouais, c'était des
polyomino, des pour dire, voilà.
Et différents nombres de cases dans les pièces.
Bon, moi j'avais préféré celui de Wolfgang Warsch, ouais, pour
sais, le
coup. C'est toujours bien de le rappeler.
Et du coup, d'ailleurs, on est loin d'un Wolfgang Warsch, hein, du coup. Parce que je disais ça en rigolant au départ. Alors, certes, il a fait beaucoup de ventes au départ, mais derrière, la production est pas énorme.
En fait, il a produit aussi beaucoup d'extensions de Carcassonne au cours de sa vie, et c'est ça qui marche, quoi.
Évidemment.
C'est peut-être un peu triste pour lui, mais...
Bon, parce que je sais pas, parce qu'au final, il a quand même, je pense, pas mal renouvelé le jeu, l'air de rien, avec toutes ses extensions.
Ouais.
Moi, j'ai un spin-off, moi, j'ai la version Mer du Sud, et effectivement, ça twiste quand même un peu le principe du jeu.
Effectivement. Enfin, je te crois sur parole. Parce que j'ai joué à aucune extension de cartes. Ce qu'on peut citer un petit peu au niveau de sa patte, parce que moi je pense qu'il a quand même un petit peu une patte, ouais. C'est que bah globalement, si on regarde les jeux qui ont le plus marché chez lui, il y a trois grosses mécaniques qui l'ont inspiré. Hein. Il y a le placement de tuiles dans la première partie de son œuvre.
Ouais.
Donc il y a bah, Carcassonne, The Downfall of Pompeii, vu qu'on place des tuiles pour de la lave là, comme j'ai expliqué. Ouais. Et Mésopotamia. Donc à chaque fois, ça utilise le placement de tuiles d'une manière très différente. Hein, mais
voilà. Au final, c'est le côté puzzle du placement de tuiles.
Non, parce que il n'y a pas ce côté-là dans Mésopotamia ou Downfall of Pompeii non plus. Dans Downfall of Pompeii,
parce que tu continues la lave. Ah non, elle peut aller dans tous les sens.
Bah, elle peut aller dans n'importe quel sens,
en fait.
D'accord. Mais il faut que tu sois juste adjacent à un truc de lave déjà existant.
Ouais.
Alors, il y a des petites règles de contraintes, mais très vite fait, c'est pas du puzzle, quoi.
Ouais, d'accord.
Et Mésopotamia, pareil, puisqu'en fait, c'est simplement quand tu explores, tu pioches une tuile, tu la places, quoi. Et bref, il s'est plus basé sur la pose de tuile au début de ses créations. Ensuite, bah, il a plutôt fait des jeux, comme j'ai dit, de tableau building, jeux de gestion, quoi. Donc, on a cité Rapa Nui et Architects of the Colosseum, qui, pour le coup, utilise la même mécanique,
ouais,
quoi,
la même mécanique.
Quoi, qui est d'ailleurs plutôt maligne et que j'ai jamais vu réutiliser dans d'autres jeux, quoi, le côté je prends une tuile et celle du dessous va déterminer le décompte, quoi. C'est pas non plus foufou, hein,
mais... Non, mais après tu vas retrouver, je pense, des choses qui se rapprochent, où en principe je prends une tuile, l'autre fait autre chose, tu vois,
ouais, peut-être
dans un choix binaire, dans un choix je pense qu'on peut rapprocher des choses quand même.
Oui, non, mais c'était pour souligner cette deuxième mécanique. Et donc depuis peu, bah là, il se met à faire des run and write, quoi, parce qu'il a fait Blocks, mais ouais. Ils ont annoncé un jeu qui s'appelait Calavera. On va peut-être pas en parler plus parce que on n'a pas trop plus d'infos pour l'instant, mais c'est un futur run and write qui va sortir, quoi. Donc a priori maintenant ça y est, c'est sa nouvelle lubie, quoi.
C'est la vague de la hype. Oh, après c'est deux jeux, c'est pas non plus. Ce qui aura marqué forcément cet auteur, c'est évidemment Carcassonne et toutes ses extensions, quoi.
Ah oui, c'est sûr, bien sûr. Mais dans tous les cas, ce qu'on peut remarquer dans ces trois mécaniques-là, c'est quelque chose que je tire d'une interview qu'il avait dit, c'est que lui, ce qu'il aime beaucoup, c'est quand on construit quelque chose collectivement, justement, et que c'est agréable à regarder en fin de partie, en fait. Et donc, bah, si on regarde le placement de tuiles, c'est ça, quoi. Tu construis quelque chose collectivement, et après, c'est agréable de regarder son plateau de Carcassonne à la fin, quoi, tu vois, ou de Downfall of Pompeii et de voir comment la lave s'est répartie dans Pompeii, tu vois. Dans le tableau building, c'est un peu pareil. Tu vois, une fois que t'as fini ta partie, tu peux voir, ah bah tiens, moi j'ai produit tant de ressources, etc.
C'est peut-être un peu moins esthétique, pour le coup, mais...
Après, si tu prends Architects of the Colosseum, on construit le Colisée de manière commune, et un petit gimmick de, en fait, tu places des morceaux, des tuiles de Colisée dans la boîte, debout, comme ça.
D'accord.
Tu vois, et à la fin, ça fait le Colisée. Bon, après, c'est...
Ouais,
c'est gadget,
un gimmick, quoi.
Ouais, c'est un gimmick.
Mais on peut imaginer qu'il l'avait prévu dans son proto.
Ouais, c'est ça. Ouais. Ça fait partie un peu du genre de design qu'il aime bien, je pense. Et pareil pour les Roll and Write qu'il est en train de faire. Au final, Blocks, qu'on a joué, c'est un jeu avec des tétraminos. Et effectivement, à la fin, tu peux essayer de regarder un peu l'espèce de Tetris que tu as fait sur ta feuille, quoi.
Ouais.
Je pense qu'il aime bien ce côté visuel. À la fin, j'ai construit quelque chose et je peux le voir, quoi. Tu
vois.
Bon, c'est sûr que c'est beaucoup plus flag dans Carcassonne où tu construis vraiment quelque chose en commun, quoi.
Après, c'est ce qu'il déclare lui-même, de toute façon.
Oui, bah oui, c'est pour ça que je voulais le citer, quoi. On peut aussi remarquer qu'il a fait beaucoup de jeux très typés à l'allemande, hein. Que ce soit Carcassonne qui a pas de thème très fort et qui a plutôt un aspect mécanique.
C'est vrai.
Ou tous les jeux qu'il a fait, vraiment, c'est des Eurogames à fond, quoi. Il y a des ressources, il y a des points de victoire, des trucs comme ça, hein. Là, on les a pas tous cités.
C'est Pompéi, le moins, qui a peut-être un côté, aventure avec.
C'est vrai.
La lave qui coule.
À Pompéi, c'est sûrement le plus violent de tous, quoi.
Il a l'air assez rigolo. Je t'avoue que je l'essaierai bien, celui-là.
Ouais, mais il a des bonnes notes sur BGG. Ouais. J'espère le trouver un jour en brocante parce qu'il a l'air rigolo. Et en plus, il y a un volcan en 3D dedans.
Waouh, à l'époque.
Ouais. Avant de finir, je vais juste citer deux petits Zolni dans sa collection, en tout cas, de jeux qu'il a créés.
Ouais.
Il a fait un jeu qui s'appelle Anasazi, qui a une très mauvaise note sur BGG, qui est sorti en 2006 chez Phalanx aussi, qui pour le coup, c'est assez intéressant, en fait, t'as des tuiles qui sont posées sur le plateau, alors ça se passe chez les Indiens d'Amérique, je crois, et t'as des tuiles qui sont posées sur le plateau, et en fait, tu vas les relier avec des petites planches en bois, enfin, non, des petites tuiles.
Ouais.
Qui représente des ponts, en fait.
D'accord.
Et tu vas les poser, et en fait, avec le chemin de pont que tu vas faire, tu dois relier ces tuiles entre elles, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme si t'avais un archipel, et que tu créais des ponts entre ces archipels, quoi.
Comme dans
Dragon
du Mekong.
Ouais, le Dragon du Mekong, un peu, ouais.
River Dragon.
Ouais, il y a un peu l'idée dans River Dragons, quoi. Et voilà, c'était juste pour citer ça. C'est un petit peu le principe aussi de, à la fin, tu peux voir un peu le réseau de tuiles que t'as créé. Bon, apparemment, le jeu est très mauvais, voilà, parce qu'il y avait beaucoup de hasard. Mais c'était pour le dénoter, parce qu'il est un peu bizarre, ce jeu. Et un autre qui est vachement intéressant, c'est Venedig, qui est sorti en 2007 chez Amigo, qui est un jeu de gestion, hein, vraiment, gestion et pose de... Alors, c'est pas de la pose de tuiles, c'est de la pose de bâtiments sur un plateau, quoi. Tu vois, t'as un plateau fixe et tu vas construire des bâtiments sur ce plateau. Et en fait, l'idée, c'est que la piste de score, elle traverse ce plateau.
Ouais.
Et que tu gagnes des points bonus si, quand tu construis, t'es adjacent à là où se situe ton jeton d'accord. de piste de score.
Ok, c'est amusant. Hein.
C'est vachement amusant comme principe. Ouais. Franchement, rien que ça, ça me donne envie de le tester. donc voilà. Ça se passe à Venise, comme ça. Donc tu vois, il y a une thématique où.
Ok, tu passes sous les ponts, en voilà, fait. Tout ça, j'imagine.
Un délire comme ça, je pense.
Sur les ponts.
Mais voilà. Idée intéressante. Pour le coup, ça me donne envie de le tester. Voilà. Est-ce qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire sur l'auteur du jeu ?
Ouais, sur l'auteur du jeu, je pense qu'on a à peu près dit tout ce qu'on avait à dire, en tout cas nous. Hein. Maintenant, il faudrait le laisser parler.
Alors, du coup, si on passait à quelques petites anecdotes.
Ah oui, parce qu'il y en a quelques-unes sur Carcassonne. Alors Carcassonne, c'est un jeu qui a pas mal évolué. Alors on l'a vu avec les extensions, hein, les mini-extensions, les extensions, les spin-offs, etc., etc. Mais c'est un jeu qui a évolué dès le départ, en fait, parce que c'est un jeu auquel on a reproché beaucoup d'aléas, parce que je l'ai dit, bon, pioche une tuile, on la pose, donc on a, bah, après on n'a pas de choix, quoi. On a que le choix de poser cette tuile à différents endroits du plateau. Donc une première variante qui est apparue, c'est la variante du j'ai trois tuiles en main et j'en choisis une et je la pose, qui permet d'anticiper certaines choses. Bah typiquement, est-ce que je vais pouvoir fermer une ville que je suis en train de créer, etc., etc. Ça, c'est un premier des premières choses. Il y avait une autre variante aussi, du coup, que j'ai découverte en faisant mes recherches. Parce que celle-là, j'avoue, c'est une variante que je joue. Hein. Moi, quand je joue à Carcassonne, je joue avec la variante des trois tuiles. Il y en a une autre, apparemment, qui est... je prends deux tuiles, j'en joue une, je passe celle qui reste à mon voisin, donc au joueur suivant, qui en pioche une de plus, et en gros, il joue avec deux tuiles, non celle que je l'ai passée précédemment.
Et du coup, tu peux contre-piquer une tuile.
J'imagine, ouais, du coup, tu peux sûrement t'arranger pour qu'il n'ait pas, en tout cas, la tuile super intéressante, celle que tu l'as obligé à poser pour fermer son carré.
Ouais.
Voilà. Et puis, j'ai appris aussi que Carcassonne, moi, dans ma boîte, il y a 7 meeples par couleur. Et apparemment, la première version contenait 10 meeples par couleur. Donc, ce qui rendait fatalement, j'imagine, le jeu beaucoup moins contraint sur cet aspect-là. Parce que déjà, avec 7, en général, on s'en sort quand même pas trop mal. Bon, évidemment, on joue avec 7, donc on s'arrange. Hein. Mais avec 10, je pense qu'effectivement, c'était autre chose, quoi.
Ouais, dès que tu poses ta tuile, tu mets ton meeple, tu réfléchis pas, quoi.
Oui, je pense, ouais.
Ouais, c'est vrai que ça...
Et puis, toujours dans le volet anecdote, bah, apparemment, Klaus Jürgen aurait aimé ajouter quelques petites règles pour équilibrer un petit peu le jeu. Typiquement, il aurait aimé, par exemple, placer une règle qui interdit de placer deux abbayes côte à côte. C'est un petit peu too much, hein, pour ceux qui ont déjà joué. Surtout si c'est deux habits du même joueur.
Ouais, c'est ça. Mais après, oui, ça rend le jeu un petit peu plus complexe. Enfin, ça fait une règle de plus à retenir.
C'est ça, c'est une règle de plus. Du coup, ça rend le jeu moins élégant, en fait.
Ouais,
finalement.
Moins élégant. Ouais.
Voilà, il y a ça. Par exemple, l'équilibre entre les routes et les villes aussi, qu'il a compensé. Peut-être avec d'autres extensions.
Oui, il y a les rivières après qui passent à côté des routes et qui augmentent leur valeur ou je sais pas quoi.
Il y a tellement de. Voilà, donc il y a des petites choses comme ça qu'il aurait voulu changer au jeu d'origine, hein, mais qui sont pas passées auprès de l'éditeur. Et bah, on peut imaginer que l'éditeur a peut-être eu raison vu le succès du jeu. Et enfin, dernière petite anecdote que j'avais sous le coude, le meeple. Donc c'est pas Klaus Jürgen qui l'a créé, ce meeple. Quand il est arrivé avec son prototype, c'était des simples cubes. Mais c'est un des patrons de Hans Im Glück qui a eu cette idée un jour. Donc c'est Bernd Brunnerhofer.
Idée de génie pour le coup. Hein.
Bah, c'est quand même pour le coup, c'est quand même un truc qui a marqué toute une communauté. C'est assez incroyable.
Mm-hmm.
Finalement, c'est quand même pas grand chose cette petite pièce de bois. Ouais, aujourd'hui, c'est quand même l'emblème. Je pense, on peut dire que c'est l'emblème de notre communauté au final.
Ouais, je suis assez d'accord. Bah, surtout qu'après, c'est même des termes qui sont réutilisés dans. En fait, même le terme meeple est pas utilisé dans Carcassonne maintenant, je crois. Hein. Si peut-être.
Je sais que c'était des c'était followers en anglais, donc du coup c'est comment, c'est des partisans, je crois.
Ah oui,
c'est
voilà.
C'est partisans en français.
Mais tu vois, par exemple, dans un jeu comme Five Tribes. Dans la règle, c'est écrit meeple, par contre, tu vois. Et il le précise en début de règle, qu'est-ce que c'est, etc. Mais Tu vois, c'est un terme qui est adopté même dans d'autres jeux, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça.
Alors, il n'y a pas de... Bon, encore une fois, on vous renvoie vers la chronique de Flavien et Père Castor, hein, qui en parlait un peu plus que nous, mais en gros, il n'y a pas de brevet là-dessus. Voilà. Il y a une espèce de bon usage qui est de dire... Enfin, de demander, en gros, l'accord à Nissim Gluck d'utiliser ses pièces de bois et le terme qui va avec. Mais c'est un bon usage, quoi.
Ok, bah voilà pour les anecdotes. Du coup, bah, on peut donner notre avis sur le jeu maintenant. Alors Cyrus, quel est ton avis sur Carcassonne? Qu'est-ce que tu penses de ce jeu?
Carcassonne. Alors Carcassonne, pour moi, c'est le jeu gateway game par excellence. Un gateway game.
Là, qu'est-ce que c'est un gateway game?
Je te vois faire la tête. Qu'est-ce que c'est qu'un gateway game? C'est le jeu en fait qu'on peut faire découvrir à des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer simplement. C'est un jeu simple d'accès qui va permettre aux gens de leur donner le goût du jeu de société moderne. Et là, on parle d'un jeu de 2000, hein, donc quand on dit moderne, c'est pas au sens d'aujourd'hui ou d'hier, c'est bien le jeu de société moderne. Alors je sais que t'as eu un petit débat là dernièrement sur le terme à utiliser.
Dit moderne,
voilà.
On voit de quoi
en tout cas, c'est le terme que j'utilise. Donc qui donne un peu cet avant-goût de ce que peut représenter le jeu de société auquel nous on joue. Donc en dehors de Monopoly, de Risk, etc. Et c'est un jeu que personnellement j'ai plaisir à jouer parce que comme je disais tout à l'heure, en fait, on peut l'aborder sous différents aspects. C'est-à-dire que effectivement, c'est un jeu que tu peux jouer comme ça sans trop te prendre la tête et comme j'aime bien le dire souvent, ah là va comme je te pousse. Comme tu peux tout à fait te prendre la tête et ça peut d'ailleurs être un peu putassier, c'est-à-dire que on peut se faire des ennemis à la fin d'une partie de Carcassonne.
Voilà.
On peut se fâcher. Hein, bah, moi j'ai de la famille qui se fâche facilement à la fin d'une partie de Carcassonne.
Faut jouer à des jeux coop alors. Et tu joues avec des extensions, des variantes, des choses comme ça.
Alors je sais que j'aime bien jouer avec l'extension qui ajoute un meeple qui vaut 2 en fait. Qui du coup permet d'aller
gros meeple, là, ouais.
Ouais, c'est ça. Et du coup celui-là il permet justement d'aller jouer un peu plus dans les villes pour aller piquer des villes aux autres, il rajoute un petit côté interactif.
Ouais.
Tout ça est finalement pas grand-chose quoi, c'est juste il y a un meeple de plus qui est plus grand que les autres et
ça suffit à créer de la tactique en plus quoi.
Ouais parce que du coup, t'en as qu'un et donc il faut l'utiliser à bon escient, il faut aller le mettre typiquement c'est vrai que tu as plutôt tendance à essayer de le mettre dans des villes ou des fois sur une route simplement. Tu vas venir piquer les points de quelqu'un sur une route quand t'es à peu près sûr de pouvoir la fermer.
Et tu le récupères après le gros meeple.
Ouais, pareil.
Ouais. Ouais, ok.
Voilà, j'en ai essayé quelques autres des extensions, mais ouais, celle-là en tout cas, en fait, elle est hyper facile à mettre en œuvre aussi.
Oui, à expliquer et tout.
Voilà, c'est hyper simple. Donc c'est un jeu auquel moi je joue encore régulièrement. En fait, je sais pas, je pense que je fais facilement une ou deux parties de Carcassonne par an, quoi.
Et variant de 3 tuiles alors.
Ouais, toujours.
Ok.
Ouais. Et toi alors? Carcassonne, c'est ta cam?
Bah moi Carcassonne, ouais, j'aime bien aussi. Moi je le pratique que à deux. Je trouve que au-dessus, en fait, on a le choix de devoir placer son meeple ou pas devient moins intéressant parce que tu récupères plus vite tes meeples à plus en fait et du coup c'est ce qui rend le jeu moins intéressant. Donc pour moi, Carcassonne c'est un jeu qui est mieux à deux. Je pense pas être le seul à être d'accord
non,
là-dessus.
Non, je pense qu'il y en a. Oui, je pense que tu dois pas être le seul à avoir cet avis-là. Ouais.
J'ai joué que au jeu de base pour le coup. Enfin, j'ai déjà joué à des extensions à l'époque où je jouais sur le net sur Brettspielwelt, voilà, juste pour tester quoi. J'ai jamais acheté d'extension, j'y joue juste comme ça et j'y joue même pas avec la variante. Moi je joue toujours, je pioche une tuile, je pose.
Ah ouais,
quoi,
vraiment l'aléa maximum.
Ouais,
quoi.
Voilà. Mais malgré tout, je trouve qu'il y a des choix intéressants. Hein.
Oui, même avec une seule tuile, bon, on s'en fout au départ où le paysage est petit, mais après.
T'as pas mal de choix, je trouve. Et justement, surtout si tu joues à deux, hein, c'est pour ça.
Oui.
Mais bon, après, c'est pas non plus le jeu le plus... Tu vois, il serait pas genre dans mon top 100 des meilleurs jeux de société au monde, tu vois. Mais c'est un jeu que, quand je suis à deux, j'ai envie de faire un jeu rapide, pas trop compliqué, et que l'autre personne, je suis à peu près sûr qu'elle sait y jouer. Carcassonne, c'est très bien, et je prends du plaisir à y jouer, quoi. Typiquement, pour comparer par rapport à des autres jeux très très connus, Catan, j'aime beaucoup moins que Carcassonne, tu vois.
Ouais, pareil. Ouais.
Ouais, tu vois.
Catan, je suis vraiment pas un adepte de Catan.
Alors que Carcassonne, tu vois, on pourrait se dire, ouais, quand t'es un gros joueur, t'aimes plus, etc. Bah, pour le coup, j'ai beau jouer à des gros jeux, Carcassonne, j'aime encore, tu vois. Alors que Catan, non, tu vois, ça passe plus du tout. Après, j'avais testé aussi le jeu de dés, mais j'en garde pas un souvenir impérissable, je t'avoue.
Je crois que j'avais même pas essayé, moi.
Ça me semblait pas dingue. Mais ouais, du coup, voilà, c'est un jeu sympa. C'est pas le jeu du siècle, tu vois, parmi ceux qu'on a cités jusque là, je préfère quand même Puerto Rico, Mémoire 44 et Magic, tu vois.
Ouais. Mais moi, je suis assez d'accord. Pour autant,
c'est pas un mauvais jeu, quoi.
C'est pas un mauvais jeu, c'est un jeu qui se vend toujours aujourd'hui et qui, alors peut-être finalement pas marqué par son game design, parce qu'il a peut-être pas fait naître beaucoup de jeux derrière lui, mais il marque une communauté par son meeple, par son emblème.
Ouais, c'est ça.
Il marque une durée. Enfin, c'est un jeu qui a une longévité incroyable et c'est un jeu qui reste un jeu que les joueurs vont conseiller à des novices. Et c'est une vraie porte d'entrée, gateway.
Ouais, gateway.
C'est une porte d'entrée dans le monde du jeu de société. Et pour ça, pour moi, c'est un jeu qui marque le monde du jeu.
Ouais, je suis d'accord. Bah pareil, si je veux le sortir avec des débutants, c'est nickel, quoi. C'est pas un jeu compliqué, quoi. Et en plus, il est emblématique. Parce que moi, ce que j'aime bien montrer à des débutants, c'est des jeux qui restent emblématiques, tu vois. Tu vas pas leur coller, je sais pas, des jeux trop récents parce que ça buzz en ce moment. Ouais. Je préfère leur montrer des jeux qui sont historiquement connus, quoi. Tu vois, je sais pas. Quelqu'un à qui tu fais découvrir le cinéma, tu lui montres E.T. d'abord et tu vois ce que je veux dire,
c'est difficile de faire découvrir le cinéma, pour le coup j'ai du mal à me projeter, mais
bah t'as des enfants
à E.T. tu vois, même des enfants maintenant le cinéma ils connaissent, toi, les dessins animés et tout ça, quand ils découvrent des choses, même toi, ouais, tu veux dire en tant qu'œuvre cinématographique,
ouais, c'est ça, etc. Quand tu vas aller, okay, quand ils seront plus grands, tu leur feras découvrir le cinéma, tu vois, le cinéma avec majuscule. Pas le cinéma pour enfants, tu vois ce que je veux dire. Ah, ouais. Et pour le coup, tu leur montreras des grands classiques, je pense, en premier, quoi, tu vois. Et
ouais, les Marvel, quoi.
Non, Star Wars ou des trucs comme ça, enfin j'en sais rien, mais pour moi Carcassonne fait partie de ces grands classiques, c'est incontestable, tu vois, n'importe qui connaît Carcassonne parmi les joueurs, c'est obligé. Moi je pense que tout le monde connaît Carcassonne, je suis à peu près sûr.
Bon, très bien. Dans les commentaires, qui ne connaît pas
Carcassonne? Ça se trouve, je pense parmi les gens qui nous écoutent, c'est obligé que tout le monde connaisse. Hein. Autant, peut-être qu'il y en avait, tu vois, qui connaissaient pas Mémoire 44 ou qui n'avaient jamais joué à Puerto Rico, mais alors, ouais, si vous avez jamais joué à Carcassonne, c'est bizarre quand même. Hein.
C'est vrai, ouais, non, c'est vrai.
Beaucoup plus étrange. Enfin, beaucoup plus rare, en tout cas. C'est pas impossible, mais c'est plus rare.
Mais c'est pas que c'est étrange, c'est que...
Et pourtant, c'est un vieux jeu, tu vois. Bon, bah du coup, on espère que vous avez aimé ce nouvel épisode de Sortons le Grand Jeu. Cyrus, comment ils font pour nous donner de l'argent et nous soutenir?
Eh bien, si vous avez aimé cet épisode, ou si vous en avez aimé un autre, après tout.
Si vous n'avez pas aimé, voilà, vous pouvez aussi nous donner...
Oui, c'est vrai, ouais, si vous trouvez que c'est trop pourri, qu'il faut qu'on prenne plus de temps, et que du coup, il faut qu'on abandonne notre travail, et du coup, qu'on ait un salaire pour travailler mieux nos chroniques.
Donnez-nous de l'argent.
On peut aussi le voir comme ça. Vous pouvez passer par Tipeee. Voilà. On a une page Tipeee. Donc, vous cherchez Proxy Jeux sur Tipeee. Hein. J'ai vérifié, ça marche. Hein, avec le tiret, sans le tiret, à tout attaché, ça marche. Pour peu que vous utilisiez le bon orthographe. Proxy avec un I, je le rappelle, les jeux avec un X. Et on a également un PayPal qu'on pourra retrouver sur la page d'accueil du site. D'ailleurs, la page Tipeee aussi est en lien sur la page d'accueil du site.
Bien évidemment, on l'a dit déjà plus tôt, mais vous pouvez nous laisser un commentaire, hein, ça nous fait toujours plaisir, ça nous motive bien à faire d'autres chroniques, parce que ça nous montre que cette chronique plaît, en tout cas. Puis même partager sur les réseaux sociaux, mettre des likes, des choses comme ça, hein, ça aide beaucoup pour le référencement et se faire à gagner de la visibilité, tout simplement, pour le podcast. Hein. Mettre des étoiles sur iTunes, des choses comme ça, hein,
ouais, ça se fait bien aussi.
Ça vous prend 2 minutes et nous, ça nous aide beaucoup. Eh bien, on se retrouve du coup dans 2 mois pour une nouvelle chronique. Et donc, d'ici là, n'oubliez pas les grands jeux et jouez bien. Ça peut se discuter, quoi. Je sais pas, on peut prendre un exemple très récent. Il y a le Q System, là, les Sherlock. Ceux-là aussi, c'est 3 enquêtes qui sont sorties en même temps. Ou même, je sais pas, Unlock, voilà.
Oui, mais c'est pas évolutif. Ouais, hein, non, qu'est-ce que tu veux dire par là?
Je dis non. Oui, non, c'est n'importe quoi. Je reviens à ce que je disais.
Je te propose qu'on passe au vif du sujet.
Allez, je vais faire.
C'est gagné. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de...
Tatatatin.
Catan. Excellent. Je suis resté bloqué sur ton Catan. Ah, presque. annoncé chez Funforge et qui est de...
Si, c'est... Mais oui, Andreas Pfister, un truc comme ça.
Andreas, j'ai mélangé les deux.
Ah, t'as dit Andreas Pfister ?
Oui. J'ai mélangé les deux.
Qui est un jeu de Andreas Pfister et... du coup, j'ai fait la même que toi.
J'ai dit Alex.
J'ai dit Andreas Pfister.